plateforme. Les idées.
Collège international de philosophie. Les samedis du livre, de l'utopie, de Pierre Macheret. Avec Frédéric Keck, Pierre Macheret et Mathieu Prodzonneville.
Bien, donc bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence en ce samedi matin. Je voudrais donc remercier à la fois la bibliothèque de Montreuil qui accueille cette rencontre ce samedi du livre du Collège international de philosophie et remercier bien évidemment le professeur Pierre Macheret d'avoir accepté de se prêter à l'exercice autour du livre de l'utopie, point d'exclamation, paru tout récemment aux éditions de l'Incidence. Nous serons, moi je l'espère, trois à discuter ce livre et à faire écho de la lecture que nous avons pu en faire. Moi-même, Mathieu Prodzonneville, et puis Frédéric Keck. Voilà, le jeu de cette rencontre, eh bien c'est un échange. Hein, où les lecteurs rendent compte du livre et de ce qu'ils y ont lu, et de la manière dont ils l'ont reçu. Et l'auteur précise, ajoute, répond à sa convenance à partir de ses remarques. Ça permet de commencer, d'engager la discussion. En disant peut-être tout de suite une chose. Dans les débats que le collège organise, samedi du livre, qui sont une sorte de tradition du Collège international des philosophies, l'usage veut que l'organisateur de la rencontre, en l'occurrence moi-même, s'en tienne un peu prudemment à une présentation introductive, donner idée de l'ouvrage à celles et ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore lu, et puis laisse les autres intervenants le soin de dire comment ils ont reçu le livre dans des lectures plus singulières, quelles questions ils se posent à son propos. Bon, je crois que je vais être obligé de déroger à cet usage, de ne pas suivre cet usage, parce que je vais essayer de donner quelques indications sur la structure de votre livre, mais il est assez difficile vis-à-vis de ce livre de s'en tenir à une forme de restitution ou de compte-rendu rationnel et détaché, parce que au fond, une telle prudence ne serait pas très fidèle à la dimension d'intervention que le livre assume dans son titre. C'est ce que vous indiquez dès l'introduction, puisque le titre choisi pour le livre inscrit d'emblée le livre sur un double registre. De l'utopie, point d'exclamation. Et l'éditeur, le graphiste dans sa sagesse a pris le soin de disposer le point d'exclamation à la ligne, de sorte qu'on peut lire le titre avec ou sans ce point d'exclamation. Et ce truc typographique, il sera question de truc tout à l'heure, ce truc typographique me paraît tout à fait cohérent. Pourquoi ? Parce que si on lit le titre sans point d'exclamation, de l'utopie, on a affaire à un texte qui est inscrit dans le genre du traité, qui tente de dégager, d'établir l'essence du phénomène considéré, de l'utopie, de la démocratie en Amérique, etc., font dans une forme de surplomb ou d'extériorité savante de l'auteur vis-à-vis du phénomène qu'il examine. Enfin, je vais vous parler de l'utopie. Mais bien entendu, si on adjoint le point d'interrogation, ce point d'interrogation introduit dans l'équation à la fois le geste d'une revendication de l'utopie et au fond une forme d'exclamation joyeuse en même temps de celui qui découvre avec surprise un trésor dans son jardin de l'utopie ou qui déballe le présent qu'on vient de lui offrir en s'émerveillant de ses petits détails. Oh, de l'utopie, il ne fallait pas, etc. Cette double lecture situe assez précisément le livre. Elle le situe d'abord, je dirais, en négatif, vis-à-vis de deux extrêmes auxquels il ne se rapporte pas. On n'a pas affaire exactement à un texte de facture académique, mais on n'a pas affaire non plus à un libelle à l'impératif, avec point d'exclamation du type indignez-vous, point d'exclamation, livre auquel le titre pourrait faire penser. Ça n'est ni l'un ni l'autre et c'est l'un et l'autre, ce qui est assez exactement le problème posé. En effet, ce titre établit une forme de solidarité entre la dimension rationnelle, l'examen rationnel d'un objet, l'utopie, et le registre des affects, des rêveries, de celui qui voudrait, contre toute attente et contre tout regard porté sur le présent, que ressuscite l'utopie là où elle manque, tapant du poing sur la table. Or, c'est bien le propre de l'utopie telle que vous l'analysez, que de conjoindre assez systématiquement, de rassembler assez systématiquement, l'extrême rigueur d'une pensée analytique et les affolements de la déraison. C'est le jugement que vous portez par exemple sur l'œuvre de Campanella. Je cite, logique et déraison s'y côtoient au point de paraître se confondre. C'est aussi ce que vous dites de Fourier. Rappelez que Breton, André Breton, voyait donc chez Fourier une coexistence d'un extrême sérieux et d'un non moins extrême penchant à l'absurde. Pour simplement prendre un exemple, on peut prendre l'exemple de la mise en série de la culture des poiriers que Fourier envisage, composée de 32 groupes, avec un premier avant-poste constitué de deux groupes et chargé des coins et des sortes de bâtardes dures, un deuxième aileron ascendant constitué de quatre groupes et chargé des poires dures à cuire, troisième aile ascendante de six groupes chargé des poires cassantes, poires fondantes, poires compactes, poires farineuses, nèfles et sortes de bâtardes molles. Là, affaire à une taxinomie qui, dans sa pureté cristalline, est en même temps un parfait désir. L'utopie est donc un genre mixte et un genre qui conjoint les opposés. Et ça implique que la réflexion sur l'utopie, en tout cas, il me semble que c'est votre parti pris, doit, pour être fidèle à son objet, ne pas adopter une posture détachée, mais redoubler à l'intérieur du jeu de l'écriture cette même conjonction improbable. Un livre avec l'utopie, et non pas seulement sur les utopies qui en dégageraient l'histoire, etc., se doit au fond de... lui aussi se tenir sur ce double registre, sur cette double face, et essayer de rassembler des opposés. Il me semble que vous le faites de deux manières. D'une part, en mobilisant une écriture, l'écriture du livre, dont on ne saurait dire si elle est sérieuse ou légère, rigoureuse ou parfaitement inconséquente, parce qu'elle est en vérité les deux à la fois. Ça, c'est particulièrement le cas dans toute la section consacrée à Fourier, où vous faites voir simultanément l'implacable logique et la puissance de délire du système de Fourier dans une reconstruction d'autant plus comique qu'elle est rationnellement imparable. Il est rare, c'est l'une des beautés du livre, qu'on éclate régulièrement de rire à la lecture d'un traité de philosophie. Et il est encore plus rare qu'on éclate de rire, non pas contre la pensée qui se trouve exposée, mais avec elle, au fond, dans une sorte de légèreté ou d'allègement, hein, d'ambiance de fête de la raison, comme lorsque débarque un groupe de jouvencelles fraisistes sortant de cultiver une clairière garnie de fraisiers dans la forêt voisine, qui donne à la production fruitière une allure de fête de tous les sens. Donc il y a une écriture, un jeu d'écriture qui m'a paru particulièrement intéressant dans ce livre, où, vous battez la campagne avec beaucoup de rigueur. Les passages sur Conan Doyle et sur Sherlock Holmes, qui de la même manière font dériver l'exemple pour lui donner une dimension fictionnelle assez intéressante. D'autre part, et c'est encore une manière d'être fidèle à la logique de l'utopie, ce qui frappe dans le livre, c'est que vous affirmez, au moment même où vous soulignez tous les paradoxes, tous les dangers de ces rêveries politiques, Campanella, Fourier, vous soulignez leur nécessité envers et contre tout. C'est-à-dire que la conscience critique de l'utopie à laquelle le livre veut contribuer, cette conscience critique ne consiste pas à démêler le bon grain rationnel et puis livrer l'imaginaire, mais à affirmer que c'est justement cela, la solidarité de la raison et de l'imaginaire, c'est justement ça qui forme le noyau et le trésor de la pensée utopique. Le propre de l'utopie, c'est justement qu'elle mêle inextricablement les valeurs du vrai et du faux, si on veut le dire autrement, de la raison et de l'imagination. son défaut constitutionnel, mais c'est aussi ce qui en fait le prix, la rend irremplaçable et même inéluctable. Cette affirmation, c'est inéluctable, l'utopie a quelque chose d'inéluctable, d'irremplaçable. Cette affirmation est d'autant plus frappante que cette présence nécessaire, à laquelle vous appelez, mais non seulement vous y appelez, mais vous le faites, puisque vous nous mettez en présence d'une série d'utopies remarquables, devant nos yeux, tout ça s'enlève sur le fond d'un constat d'absence, ou d'épuisement radical, un épuisement que vous ne vous contentez pas de constater sur le mode « il n'y a plus d'utopie, il n'y a plus assez d'utopie, on n'a pas assez d'imagination, on n'a pas assez d'énergie, on est trop docile, il faudrait s'y remettre ». Vous, au fond, vous expliquez, vous suivez aussi loin que possible l'explication des raisons pour lesquelles il ne peut plus y avoir d'utopie. En particulier, à travers une relecture patiente des thèses de l'ouvrage de Karl Mannheim qui s'appelle « Idéologie et utopie ». Selon cet auteur, en effet, c'est la logique interne de la pensée utopique qui, depuis 10 siècles, conspire à sa disparition. C'est-à-dire que l'utopie, d'abord située dans un écart maximal vis-à-vis du réel, va peu à peu faire effort pour se rapprocher de la réalité, pour se présenter comme, au fond, la pure expression des contradictions qui travaillent le réel, de sorte que l'utopie, il ne peut plus y avoir, sinon la réalité elle-même. L'utopie communiste, marquant à cet égard, par son effort pour identifier strictement la société à venir, promesse d'une société à venir aux contradictions du présent, une espèce de point d'aboutissement. L'utopie réalisée, mais l'utopie à la fois évidemment éteinte. Et vous dites, par là, qu'au-delà de ce point, il y a plus d'utopie possible, il ne reste plus que ce que vous appelez l'esprit qui nie, la protestation anarchiste, le non, mais un non qui ne peut plus prendre forme, prendre corps, dans une situation positive d'une autre réalité sociale, d'une autre réalité politique. Il n'y a plus d'autre manquêtre du social, pour reprendre une formule de Ricoeur que vous citez et qu'on n'attendrait pas forcément sous votre plume. Du coup, il y a quelques utopies dans les livres à expliquer d'un même trait pourquoi il n'y a plus d'utopie possible et pourquoi il en faut quand même. À revendiquer ou à exiger l'utopie en dépit de la logique qui la porte à disparaître en se réalisant. Alors, c'est là, à ce point de contradiction-là, que j'ai envie de m'arrêter un instant et de quitter le registre du compte-rendu pour faire état du trouble dans lequel m'a jeté la lecture de votre livre. Il me semble en effet que cette affaire de clôture de l'utopie, et d'urgence de remédier à cette clôture, tout cela n'a rien pour moi de thèse abstraite, ça dessine une conjoncture politique et théorique tout à fait précise, et j'ai trouvé dans le livre l'écho d'une insatisfaction que je pense nous sommes assez nombreux à éprouver depuis quelques années déjà. Il me semble en effet que une part du problème intellectuel et politique dont, pour aller vite, notre génération a hérité, une part de ce problème tourne autour de la question de savoir si nous devrions absolument détacher la pensée critique d'un horizon utopique. Savoir si nous devrions, au sens à la fois d'une contrainte et d'un devoir, on est obligé et puis c'est ce qu'il faut faire, nous passer d'utopie pour contester les injustices et les dominations actuelles, pour inventer de nouvelles manières de vivre et de vivre. Cette exigence d'une pensée critique sans utopie nous travaille et nous embarrasse depuis assez longtemps déjà. Il y a à cela, pour essayer de préciser le contexte, il y a évidemment des raisons objectives. Il y a des raisons objectives qui sont trop évidentes pour que j'y insiste. Pour mémoire, on peut évidemment évoquer l'effondrement du socialisme réel, puis la chute du mur. On peut évoquer le fait que le néoconservatisme américain s'est explicitement présenté comme la tentative pour réaliser une utopie politique, en mettant en place des démocraties représentatives et libérales par le moyen des armes dans des pays où c'était improbable. On peut évoquer le fait que, au fond, la dernière utopie internationaliste en date vraie utopie internationaliste en date, ça a été celle de l'islamisme dans sa version Al-Qaïda. On peut évoquer le fait que l'horizon dans lequel on se trouve, au fond, nous porte moins à rêver d'avenir radieux qu'à anticiper des crises ou des catastrophes. Catastrophes financières, catastrophes écologiques, donc, au fond, on est appelé à envisager le pire plutôt qu'à rêver du meilleur. Donc il y a beaucoup de causes réelles qui peuvent nous amener à nous méfier des utopies. Mais, et c'est presque plus embarrassant quand on a la tête un peu philosophante ou un peu théorique, je crois que nous, pour tout, encore employer cette idée générationnelle un peu vague, nous avons été aussi disposés à nous méfier de l'utopie pour des raisons, de l'intérieur même de la réflexion critique. Parce que certains des représentants majeurs de la réflexion critique contemporaine ont cultivé vis-à-vis de l'utopie une défiance assez systématique. Je trouve qu'il y aurait, en tout cas votre livre donne envie, d'écrire une histoire récente de l'opposition à l'utopie à l'intérieur de la théorie critique. Et d'une opposition à l'utopie, non pas pour promouvoir une espèce de pragmatisme raisonnable, mais de manière à être plus radical que l'utopie. De manière à porter une exigence de radicalité là où l'utopie constituerait une forme d'affaiblissement, d'immobilisation ou de neutralisation. Je prends trois exemples. Je reviens depuis ces exemples à votre livre dans un instant. Trois références. Deleuze. Nous lisons ces Deleuze et Guattari, Qu'est-ce que la philosophie, page 106. L'utopie n'est pas un bon concept, parce que même quand elle s'oppose à l'histoire, elle s'y réfère et s'y inscrit comme un idéal ou une motivation. Mais le devenir et le concept même, il naît dans l'histoire, il retombe, mais n'y est pas. Ce que Deleuze et Guattari stigmatisent là, c'est à la fois la manière dont l'utopie fige la critique du présent dans l'élément de la représentation, une pure représentation, sans rapport avec le réel, et puis la façon dont elle mobilise ces instances qui font partie de ce que Deleuze appelle l'histoire, les instances majuscules, l'État, la société, etc. Là où, chez Deleuze, les choses se passent toujours par-dessous. Donc, méfions-nous de l'utopie. Premier exemple. Deuxième exemple, Foucault. Je cite Les mots et les choses, préface, page 9. Les utopies consolent, les hétérotopies inquiètent. Les utopies permettent les fables et les discours, elles sont dans le droit fil du langage, dans les dimensions fondamentales de la fabula. Les hétérotopies dessèchent le propos, arrêtent les mots sur eux-mêmes, contestent dès sa racine toute possibilité de grammaire. Elles dénouent les mythes et frappent de stérilité le lyrisme des phrases. C'est un petit peu différent, puisque ce qui est dénoncé là, ça n'est pas que l'utopie se situe dans un monde idéal sans rapport, au sens à la fois du bénéfice économique et de la nation, avec le présent, c'est plutôt l'idée que l'utopie est compromise avec le langage que nous parlons déjà. Et que cette collusion fait qu'elle peut se déployer facilement, indéfiniment, sans rien changer à l'état présent des choses, de même que ce que Foucault n'arrête pas de répéter, le discours de la réforme ou le discours de la critique peut doubler l'existence d'une institution comme la prison pendant 2 siècles sans que ça change rien. À ces deux références, on pourrait en ajouter une troisième, histoire de faire bon poids, moins directe, mais très influente dans la pensée contemporaine, c'est la référence à Derrida. Je pense aux critiques régulièrement formulées par Derrida vis-à-vis de toute tentative pour énoncer, dans la forme d'une fiction, dans la forme d'une théorie enfin cohérente de bout en bout, expurgée de tout élément d'impureté ou d'instabilité, pour énoncer une alternative aux incohérences, aux contretemps, aux contradictions de ce qu'on appelle peut-être improprement notre présent. Par exemple, c'est ce qu'il décèle et c'est ce qu'il conteste, Derrida, dans le geste marxien du manifeste communiste, dans le texte de Marx, je cite, parousie de la manifestation du manifeste, voici l'appel, à savoir le manifeste en vue du manifeste, l'auto-manifestation du manifeste, en quoi consiste l'essence de tout manifeste qui s'appelle lui-même, en disant il est temps, le temps se rejoint et s'adjointe ici, maintenant, un maintenant qui advient lui-même dans l'acte, c'est le corps de cette manifestation. caricatrice un peu le manifeste du Parti communiste, ne se veut certainement pas une utopie. Mais la critique que formule Derrida touche à l'utopie sous certains de ses aspects. Dès qu'il serait possible de manifester le possible sous la forme du pur présent, d'un présent de l'indicatif. Les utopies s'énoncent au présent, il faut le remarquer, dans une présence où l'opposition entre la différence et l'identité serait complètement résorbée, hein, où le présent serait corps avec lui-même, alors que, pour Derrida, c'est au contraire la différence à soi du présent qui ouvre la possibilité de l'histoire et ouvre la possibilité de l'événement. L'utopie viendrait refermer dans la forme du présent pur, ou de l'illusion de la présence, cette déhiscence, cette espèce de décalage vis-à-vis de soi qui travaille le contemporain. Il y aurait évidemment, c'est pas le propos, mais le livre invite à faire la généalogie de ces différentes critiques. Il y a là-dedans, dans cette hostilité assez convergente d'un certain nombre de contemporains vis-à-vis de l'utopie, il y a un héritage marxien, il y a un héritage bergsonien, il y a un héritage benjaminien, certainement, etc. Il faudrait aussi, et là je commence à me rapprocher de votre livre, à comprendre comment cette critique de l'utopie a débouché sur toute une série de réponses qui ont redéfini la tâche critique. C'est-à-dire que la tâche critique contemporaine, elle s'est définie contre l'utopie. Je pense, dans la coulée de Deleuze, à l'idée qu'il faut il faut plus en passer par le mouvement dialectique de l'histoire, il faut promouvoir des devenirs qui soient exposés de toute négativité. Je pense, dans la foulée de Foucault, à l'idée qu'il faut produire des critiques qui soient sans horizon et sans programme. Ne jamais dire ce qu'il faut faire, mais exhiber les dilemmes qui traversent le présent, montrer les contradictions inextricables dans lesquelles les institutions sont prises, et invoquer la résistance comme un pur refus, et comme un refus absolument opaque, sur ses raisons, sur ses motifs, sur ses désirs, etc. Voilà, nous ne voulons pas de ça, c'est intolérable. C'est intolérable. Le présent est contradictoire, il n'y a pas de bonne solution, et débrouillez-vous. En comptant sur ce débrouillez-vous pour produire des effets critiques. Je pense enfin, dans la foulée de Derrida, à la convocation du mécanisme, motif qui a fait florès depuis chez de multiples auteurs. On ne compte plus les messies dans la théorie critique contemporaine, un peu comme dans la vie de Brian de Monty Python. Il y en a plusieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fond, il faudrait s'en remettre à une promesse de rupture, mais de rupture si radicale qu'elle excède toute prévision possible. Non pas un avenir, mais un à venir. Et cet à venir, qui en même temps c'est peut-être déjà là d'ailleurs, il se laisse reconnaître au sens qu'on ne peut pas le reconnaître. Au sens où il excède toute possibilité de se le représenter, ou de le calculer. Il excède toute action maîtrisée, tout savoir préalable, c'est un pur tout autre sans fixe. Alors toutes ces postures, elles nous sont devenues familières, peut-être un peu trop, pour n'en être pas à l'occasion fatiguées. Devenir imperceptible, se mettre à l'école des dilemmes, rendre difficiles les gestes trop faciles, s'ouvrir à la promesse de l'avenir, et ainsi de suite. Et c'est à cet endroit-là, moi, que j'ai reçu votre livre. Il me semble, en effet, que le traitement que vous faites subir à l'utopie réouvre le débat à l'endroit même où ces différentes postures sont devenues insatisfaisantes. Donc, il est devenu insatisfaisant de définir la critique politique et sociale de cette manière-là, seulement, ou sous ces catégories-là, seulement. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous réouvrez le débat en faisant jouer à l'égard de l'utopie, ou à l'intérieur même de la réflexion sur l'utopie, des gestes ou des motifs qui lui ont été opposés, ou qui ont été présentés comme des alternatives à l'utopie. Quand vous travaillez à l'intérieur de l'utopie, avec ces questions, ces problèmes, que les auteurs dont je viens de parler ont opposé, ont objecté à la pensée utopique. De ce point de vue-là, trois de vos propositions me paraissent particulièrement fécondes et je voudrais que vous puissiez y revenir. La première de ces propositions concerne, pour le dire de façon un petit peu vague, la place accordée au négatif dans la pensée utopique et dans le rapport entre la pensée utopique et le contexte historique. Alors, c'est très ambigu. C'est très compliqué ou très embrouillé. D'un côté, toute une partie de votre livre est consacrée à essayer de spécifier, de définir le type de rapport négatif que l'utopie entretient avec l'état réel des choses. L'utopie, par définition, ça n'est pas le réel, mais que veut dire ce « ça n'est pas » ? Toute une partie du livre va s'attacher à se demander si, par exemple, l'utopie, c'est le suspens du réel dans la fiction. On se détourne, on fuit d'ici-bas au plus vite, comme disait Platon, et on produit une pure fiction. Ou bien, est-ce que c'est par les moyens de la fiction le dévoilement que quelque chose manque dans le présent? Est-ce que l'utopie, c'est une sorte de projection rétrospective du réel sous la forme d'impossible? Je garde la situation présente, puis je rêve une société, mais au fond, cette société, ça n'est jamais qu'une espèce de décalque de là où je vis. Tout lecteur de science-fiction sait que les romans de science-fiction parlent essentiellement de l'époque où ils ont été écrits, et qu'on peut y reconnaître les objets, les costumes, les problèmes, les tics de langage des personnes qui vivaient à ce moment-là. Bien, c'était autre chose. Est-ce que c'est l'extraction, pour reprendre une autre formule, l'extraction d'une conjoncture historique précise, d'une négativité qui la travaille de l'intérieur et qui la pousse à voir sous un angle différent. Bon, l'utopie est le négatif du monde, mais quel négatif au juste? Peut-être que ce serait une question sur laquelle revenir ensemble. Bon. D'un autre côté, le propre de l'utopie, si on la considère une fois dans son texte, dans le type de monde qu'elle présente, le propre de l'utopie, c'est qu'elle expulse absolument la négativité. C'est-à-dire que les utopies classiques réalisent, sous une forme un peu inattendue, l'ambition d'une pensée débarrassée de toutes les figures de la tragédie, toutes les figures de la finitude. Rien ne va mal. Rien n'est trop peu. Ou rien n'est trop. Dans les mondes utopiques, non pas parce qu'on prendrait appui sur le tragique pour le surmonter, mais parce qu'on ne veut pas le savoir. On ne veut pas le savoir, on passe purement et simplement outre, on ignore superbement la dialectique, tant d'ailleurs la dialectique comme mouvement réel, pas de contradiction réelle, que la dialectique comme jeu d'échange et d'objection. Il n'y a pas d'argumentation, on a affaire à de pure narration. Au fond, si on parle qu'il faille, lorsque Deleuze dit qu'il faut préférer l'invention à la contradiction, préférer la géographie à l'histoire, ben c'est exactement ce que fait Thomas More. En quoi, vous soulignez d'ailleurs en conclusion de votre analyse des utopies classiques, le paradigme de la pensée utopique, c'est un grand naturalisme. Un grand naturalisme, dites, un effort pour apparier étroitement l'un à l'autre le naturel et le social en les ramenant aux mêmes règles de conformation et de développement dans le cadre d'une structure rationnelle unique. En un sens, l'utopie, c'est la réalisation d'un naturalisme intégral comme programme politique. Ce qui, en un sens, est très beau, ce qui, en un autre sens, est très inquiétant. Parce que chacun est assigné à une place où, étant pleinement épanoui, il n'a plus rien à désirer, plus rien à souffrir, plus rien à manquer. Tout va bien. Cela, le Deleuzien, qui ne se reconnaît pas forcément spontanément dans la lecture de Thomas More, pourrait répondre que ce genre de naturalisme n'est pas tout à fait celui qui soutient l'idée d'un devenir des multitudes. D'abord parce que rien ne bouge en utopie, on n'est pas dans une pensée du devenir, tout est tableau, les choses sont fixées une fois pour toutes, chaque jour on répète le précédent. Et puis ce naturalisme est lui-même utopique, ça m'a beaucoup intéressé cette idée que, vous dites, la nature que se figurent les utopies est au fond une nature elle-même utopique. On aurait envie de vous demander au passage, et en songeant du coin de l'œil à votre longue présentation de Spinoza, ce qui sépare cette conception utopique de la nature d'une conception qui ne le serait pas. Et si quelque chose comme une utopie politique pourrait s'ordonner à un genre de naturalisme du type de celui de Spinoza, par exemple. Or, il me semble qu'une partie de la réponse peut être décelée dans la longue étude que vous consacrez à l'œuvre de Fourier. Je reviens encore parce que c'est vraiment le passage du livre qui m'a fasciné. Puisqu'au fond, là, c'est une autre articulation entre nature et politique qui se passe. Ce n'est pas une articulation transcendante avec un État qui va dire, ben voilà, la nature de l'homme, c'est ça. Donc on va mettre les choses. On va quadriller la société de telle manière que chacun exprime sa propre nature. Non, chez Fourier, on a une nature comme dynamique immanente de mobilité perpétuelle. La nature se différencie en permanence d'elle-même. Nos affects, nos goûts, nos désirs sont infiniment divers et toujours en mouvement. Et c'est ça qui vient nourrir, relancer les formes de la sociabilité humaine. Et dans ce monde-là, toute contradiction, toute différence est réintégrée, peut être réintégrée, mise à profit pour augmenter encore la fécondité, le plaisir qu'il y a à vivre ensemble. Comme vous le dites, même les tendances asociales des sauvageons peuvent être, pour peu qu'on organise de très beaux défilés de racailles, devenir le ressort d'une augmentation de la vie en société. Ça peut être absolument magnifique. Vous voyez, ce n'est pas le devenir immanence contre l'utopie, comme chez Deleuze, c'est le devenir immanent comme utopie. Mais ça déplace vraiment les termes du problème vis-à-vis de l'insatisfaction dont j'ai parlé tout à l'heure vis-à-vis de... C'est la première proposition qui m'intéresse dans votre livre. Deuxième point. Évidemment, il n'est pas sûr que ce monde-là soit tout à fait exempt d'ambiguïté. Et que nous ayons très envie, à certains égards, d'habiter le monde de Fourier. Tout au long de la section consacrée à Fourier, je n'ai pas pu m'empêcher d'osciller entre l'enthousiasme, l'extraordinaire drôlerie de cet affairement universel, les gens sont occupés tout le temps, ils dorment très peu, ils ont tellement à faire, tellement de choses différentes à faire, qu'ils ne dorment pas beaucoup, ils sont très tôt le matin, les enfants sont mis au travail très jeunes, mais parce qu'au fond, c'est pas du travail, c'est l'expression de leur pur plaisir. Enthousiasme et un frisson un petit peu glacé. Parce qu'il me semblait reconnaître dans ce tableau quelque chose du discours, quelque chose des valeurs et des mots d'ordre qui traversent notre monde bien réel. Joie devant la grande liberté de cette espèce de rêverie à ciel ouvert, mais en même temps, la mise au travail intégrale de toutes les passions humaines, l'insistance sur la mobilité, vous dites, Fourier, je cite, préconise des formes d'existence communautaire trépidantes, pratiquées à fond de train, en vue de prévenir la tentation de s'installer définitivement dans telle ou telle position de monopole, une fois pour toutes définie et arrêtée. Tout ça ressemble en un sens aux formes de la gouvernementalité libérale, telles que Foucault peut les décrire, l'analyse que Foucault propose des normes modernes qui s'exercent de manière immanente, qui transforment toute différence en gradation, qui va chercher l'ordre social dans les affects intimes des individus, etc. Même quand vous évoquez la constitution permanente de groupe, tout fonctionne par groupe qui se défend et se refond en permanence. Et, des choses chez Fourier, et puis chez Fourier, on n'échange plus, on partage. J'avoue que j'ai immédiatement pensé aux logiques contemporaines des réseaux sociaux, où fleurissent en permanence des groupes, et où il ne s'agit pas d'échanger avec tel ou tel, mais de partager sur sa page, des vidéos, des choses comme ça. Je pense que si Fourier aurait, comme vous dites, adoré les défilés de majorette, il aurait peut-être aussi déjà sa page Facebook. Donc, si Zuckerberg n'est pas, Mark Zuckerberg n'est pas le Fourier moderne. C'est-à-dire. Alors, on est là renvoyé à la deuxième des propositions qui caractérisent le livre. Cette espèce d'ambiguïté essentielle, très beau. Est-ce que c'est pas déjà ce qu'on est en train de dire? Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Il me semble que vous faites quelque chose de très intéressant dans ce livre, qu'on pourrait définir ainsi. Face à cette politique qui joue le scepticisme contre les programmes, qui joue les dilemmes inextricables contre les facilités de la pensée réformée, sur Foucault, pour aller l'art de rendre difficile les gestes trop faciles. La rêverie est consolante. Bien, face à cela, vous opposez la structure profondément dilemmatique de la pensée utopique elle-même. L'utopie, ce sont des dilemmes. Quiconque entend produire une utopie, est immédiatement pris dans toute une série de dilemmes. Est-ce que c'est l'utopie est un roman de l'État, qui se répéterait toujours, quelles que soient les formes, ou est-ce que c'est une forme en transformation? Est-ce que c'est une fuite dans la fiction? Est-ce que c'est une manière de déceler les contradictions du réel? Est-ce qu'elle est émancipatrice? Ou est-ce qu'elle est asservissante? Etc. Parenthèse. On peut se demander si, sous votre plume, ces dilemmes sont bien aussi insolubles que vous le dites. Il m'a semblé régulièrement que vous exhibez les deux branches de l'alternative, exhibez entièrement, puis à la fin, vous ne vous tenez pas dans un parfait équilibre, dans une isosthénie, comme disent les philosophes, mais vous exprimez en définitive une espèce de préférence pour l'une des branches, préférence qui ne peut pas être rationnellement justifiée jusqu'au bout, mais elle manifeste votre souci de vous tenir, contre toute raison, du côté de l'utopie. Et au fond, il y a dilemme, certes, mais je penche d'un certain côté. Quoi qu'il en soit, ces préférences, votre livre a ce grand mérite de faire justice à une idée, de régler son compte à l'idée selon laquelle l'utopie serait une pensée paresseuse, à l'idée selon laquelle il serait facile d'être utopiste. Et ici, au contraire, la fécondité politique de l'utopie, elle est directement consciente des contradictions. Produire une utopie, c'est immédiatement produire des contradictions, mais ce sont ces contradictions-là aussi, ces hésitations-là qui vont permettre à ceux qui portent l'utopie d'avancer, de faire avancer les choses pour peu que ces contradictions restent vivantes. Voilà la deuxième proposition qui m'intéresse. L'utopie comme dilemme. Dernière proposition que j'ai trouvée dans le livre et qui... Je vais aller vite parce que j'ai été long, qui constitue pour moi une grande source de soulagement. J'éprouve, en effet, depuis assez longtemps, un peu de lassitude vis-à-vis du grand écart qui, dans la pensée critique contemporaine, éloigne la considération des alternatives d'ensemble et le souci du détail. Au fond, Foucault et un certain Derrida ne nous ont pas aidés de ce point de vue-là. D'un côté, tout se passe comme si, attentif à la leçon de Foucault, nous étions accoutumés à penser que c'est toujours le diable qui se niche dans les détails. Ce que Foucault écrit dans Surveiller et punir, il écrit « Ruse moins de la grande raison qui travaille jusque dans son sommeil et donne du sens à l'insignifiant que de l'attentive malveillance qui fait son grain de tout. La discipline est une anatomie politique du détail. » Détail, c'est dangereux. Et les détails, les petits détails, mobilier du métro, que sais-je encore, c'est là où nous allons déceler la trace des mécanismes de pouvoir. Et en même temps, tout se passe comme si, en étant attentif à la leçon de Derrida, ou d'un certain Derrida, qui est aussi chez Derrida un extraordinaire talent du détail, c'est autre chose, tout se passe comme si nous ne pouvions donner nos carrières à nos aspirations qu'en les creusant, comme une citrouille, qu'en les évidant entièrement de toute figure déterminée, en les portant à une abstraction absolument revendiquée, hein, proche en un sens de la pensée, de la théologie négative. Ce n'est ni celui-ci, ni cela, c'est l'avenir. Et de cet avenir, on ne peut absolument pas se représenter dans le détail quel sera son allure. Or, ce qui est très frappant dans votre livre, c'est que vous situez dans les détails de la pensée utopique l'essentiel de sa force, le ressort de son aptitude à rêver des formes de vie différentes, le truc, pour reprendre l'expression que vous employez à propos de Fourier, le truc qui va renverser de fond en comble l'état présent des choses. Cultiver les poires, voilà l'affaire. Manger sa soupe, voilà le problème. C'est en quoi, sans doute, l'utopie est hétérogène à la philosophie. J'ai pensé à plusieurs reprises, en vous lisant, à ce que Hegel recommande dans la préface des principes de la philosophie du droit, lorsqu'il dit « Platon aurait pu négliger de recommander aux nourrices de ne jamais rester tranquille avec les enfants, fils aurait pu dispenser de construire le perfectionnement du passeport de police. » Dans de telles explications, il ne se voit plus aucune trace de philosophie. Et elle peut d'autant plus abandonner cette sorte d'ultra-sagesse qu'elle doit se montrer la plus libérale sur cette foule infinie d'objets. La philosophie se moque des détails. Donc, il y a une hétérogénéité du détail vis-à-vis de la pensée du registre propre de la philosophie. Mais, je conclurai par là, par un détail, en vous lisant, j'ai songé aussi aux images que le collège a présenté il y a quelques temps, aux images qui ont été tournées par une directrice de programme du collège qui est égyptienne et qui est partie, plein de rire, avec sa caméra au moment de la révolution. Et parmi ces images, il y avait des images qui montraient que pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, des manifestants, qui par ailleurs, on le sait, ont construit des toilettes sur une place qu'ils n'avaient pas, pour des centaines de milliers de personnes, extraordinaire, bon. Mais les manifestants en même temps ont essayé de construire une catapulte. Une catapulte qui n'a jamais fonctionné, qu'ils ont fabriquée avec les moyens du bord, des barres de fer qu'ils avaient trouvées là, etc. Mais une catapulte qui est sans doute l'un des objets les plus poétiques qui ait été produit pendant la révolution égyptienne. Bien, l'incongruité de cet objet, son projet parfaitement déraisonnable, lutter contre les forces de police à la catapulte, et jusqu'à son principe même, c'est-à-dire l'idée d'un mécanisme à ressort. Dès que, au fond, il faut s'étendre un ressort. Tout ça m'est apparu en vous lisant sous une lumière nouvelle, comme un fragment d'utopie en acte. À l'intérieur d'une révolution qui, elle, était bien réelle. Et ça, de cet éclairage-là, je voulais vous remercier, parce que c'était une image qui m'avait beaucoup frappé, à laquelle vous ne parvenez pas à donner sens. Votre livre permet à mon avis de lui donner sens. Voilà ce que je peux dire sur votre ouvrage. Et je vous cède la parole.
Bon, vous avez tout dit en soulevant un certain nombre de problèmes pour lesquels je n'ai pas forcément de réponse. Alors, tout d'abord, je vous remercie d'avoir pris l'initiative d'organiser cette séance qui permet de faire connaître mon travail. Je remercie Frédéric et puis aussi Bertin Blanc en anticipant sur sa venue d'avoir accepté d'y prendre part. Je vais tout de suite dissiper un malentendu. Je ne suis pas un spécialiste de l'utopie. Pour toutes sortes de raisons, dont la toute première est que l'utopie comme genre et comme type de pensée, c'est quelque chose de considérablement étendu. C'est une littérature très très vaste et dont il est extrêmement difficile de définir les limites. On ne sait pas où ça commence, où ça s'arrête. Est-ce que la République de Platon, c'est l'utopie ? On peut se poser la question, mais ce n'est pas du tout évident d'y apporter une réponse. Et puis, à l'intérieur même de cette littérature, il y a des grandes masses qui sont complètement hétérogènes, qu'on a peine à faire rentrer sous un concept unique. Vous avez cité le passage de Le Légataire, où il dit que ce n'est pas un bon concept. Ils ont tout à fait raison. Ce n'est pas un bon concept. Je me permettrai d'ajouter pour mon propre compte, c'est ce qui fait son intérêt. J'ai été dans ma formation préparé à l'idée qu'il fallait travailler sur de bons concepts. Et qu'il fallait surtout évacuer les mauvais. Bon, aliénation, ce n'est pas un bon concept. N'en parlons plus. Bon, sur le tard, à un âge avancé, je suis quand même venu à l'idée qu'il fallait peut-être s'intéresser aussi aux mauvais concepts. En tout cas, il faut apprendre à vivre avec, savoir quoi en faire. C'est travailler sur de bons concepts, il n'y a rien de plus simple. On sait ce qu'ils veulent dire, on les définit, ils sont là, ce sont des objets identifiables, enfin, du moins on peut l'espérer, parce que c'est pas sûr du tout que les bons concepts soient si bons que ça. Mais ça c'est une autre chose. Mais alors les mauvais, on les écarte au fond par facilité, alors qu'ils font partie du monde dans lequel nous vivons. L'idéologie, elle est là. Il faut bien que nous nous débrouillons avec ce qu'elle nous fournit, avec toute la matière dont elle nous inonde. Et l'utopie, donc, fait partie de cette masse informe. Alors, moi, dans ma formation, dont je parlais incidemment à l'instant, justement, j'ai été détourné de m'intéresser non seulement au mauvais concept, mais à ce mauvais concept-là. l'utopie. Hein, dans les références que j'ai pratiquées dans le passé, bon, il y avait Spinoza, vous en avez parlé en passant, alors Spinoza, il parle de l'utopie tout au début du traité politique, il emploie le mot. Je crois qu'il faut se tenir mordicus au mot. Hein. Quand il apparaît quelque part, bon, eh bien, le problème de l'utopie surgit. Tant que le mot n'est pas présent, méfions-nous. Hegel, les utopistes, ce sont des idéalistes, ce sont des gens qui ne s'engagent pas, qui parlent de la réalité politique, mais en voulant garder les mains bien propres, ils bâtissent dans le ciel des systèmes, et c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Et dans le paragraphe suivant, il oppose. Alors, je ne sais pas du tout, il emploie le mot utopie, mais je ne pense pas qu'il avait mis mort. Hein. Je ne sais pas du tout à quelle réalité historique et textuelle il se référait, ce qu'il avait dans la tête quand il écrivait le mot. On voit tout de suite, en lisant la suite, hein, Machiavel, c'est le contraire, c'est le représentant, au contraire, du politicien qui plonge les mains dans la matière, qui s'engage, qui prend les risques, qui va au charbon, etc. etc. Je signale en passant, c'est un fait sur lequel on n'insiste pas, mais qui est quand même extraordinaire. Le mot utopie est inventé par Mort en 1516, hein, dans un livre qu'il appelle Utopia, du nom de ce royaume imaginaire fondé par cet Utopus, hein, dont on comprend en lisant le livre que c'est un grec du temps d'Aristote, hein, qui au cours de voyages très très lointains est allé fonder ce pays mystérieux. 1516, Utopia de Mort, mais 1516 aussi le prince de Machiavel. Bon, naturellement, ils ne se connaissaient pas, hein, encore que par leurs activités diplomatiques respectives, ils auraient très bien pu, au fond, être en contact l'un avec l'autre. Je crois que Mort était présent à l'entrevue du camp du Droit d'Or comme fonctionnaire, hein, de l'État anglais. Il a accédé à de très hautes fonctions, hein, il a été le grand chancelier, c'est-à-dire le François Fillon de Henri VIII, avec qui il s'est disputé ensuite à cause d'Anne Boleyn, et puis surtout à cause du schisme de l'Église d'Angleterre, ce qui lui a valu d'être non seulement destitué de ses hautes fonctions, mais d'être condamné et exécuté, la tête tranchée, ce qui lui a valu post-mortem, deux siècles après, la canonisation. Saint Thomas More. Hein, dans l'histoire de la philosophie, il y a deux Saint Thomas, il y a Thomas d'Aquin, il y a Thomas More. Bon, je m'égare. J'ai essayé de me demander si Le Prince et Utopie, ces deux livres qui ont paru simultanément, ce n'était pas comme l'envers et l'endroit de la même feuille de papier. Hein, les deux versions alternatives d'un même discours, alternatives mais en même temps complémentaires, inséparables, indissociables. Je parlais de Spinoza. Quand Spinoza condamne l'idéalisme et le refus de s'engager des utopistes, on s'est dit qu'il est sous le mot utopie quelque chose. Il n'était pas très bien informé parce que les utopistes étaient engagés et c'était tout sauf des idéalistes. Au contraire, ils ont des visions un peu plus réalistes de la réalité de leur temps, et c'est parce qu'ils ont une vision réaliste complètement lucide, hein, libre de tout préjugé, qu'ils se mettent pour faire comprendre ça à composer leurs utopies, qui sont des récits, des narrations, des fictions littéraires, dans lesquelles il serait tout à fait dangereux et inapproprié de voir autre chose que des fictions. Et pas du tout des substituts à la réalité. Je précise, c'est très intéressant de savoir comment Mort, donc du point de vue du vocabulaire, le premier utopiste, puisque c'est lui qui a fabriqué ce néologisme, Mort, quand il a rédigé son livre, l'utopie de Mort est composée de deux parties. Hein, et c'est la deuxième partie qui décrit ce royaume imaginaire d'Utopus, qui rentre dans les détails de son fonctionnement. On est émerveillé, hein, quand on prend connaissance de ces détails. Et ayant écrit ça, il avait fait passer le texte, il l'avait fait circuler autour de lui, il l'avait montré à Erasme, avec qui il était très lié, qui avait énormément ri en lisant, et aussi pour qu'on rit. Hein. Le texte, Wolf lui avait dit, il ne faut surtout pas publier ça comme ça, parce que les gens ne vont pas comprendre, ils vont prendre ça au sérieux, ils vont prendre ça au pied de la lettre comme un programme politique, comme un projet. Il faut donc que vous rédigiez avant pour contrebalancer une première partie qui, elle, va parler de la réalité. Et donc, dans le livre de Mort, il commence par une première partie qui a été rédigée ensuite et qui est, dont l'idée venait des races, et qui est un texte sur l'état de l'Angleterre contemporaine que Mort connaissait fort bien pour justement être tout à fait engagé dans les rouages de l'état. Il était juriste, hein, il était, avant de devenir un homme politique important, il était, je crois que c'était shérif de Londres, hein, c'est un juge de paix qui avait à traiter d'affaires très courantes. Et, alors, cette première partie est d'une vacherie absolument extraordinaire. La noblesse anglaise prend une volée de bavards, c'est un texte très très dur, et tout l'intérêt du livre tient au contraste entre les deux. De ce point de vue, Erasme avait eu l'idée du génie. Et on comprend que Mort, quand l'idée lui a été communiquée, est abondé dans son sens et met tout de suite mis la réalisation. Alors Erasme a joué un rôle très très important, parce que c'est un état d'esprit hein, qui est derrière tout ça. Et Erasme, c'était justement... il a failli être cardinal, hein, il a failli être professeur au Collège de France de François Ier, il a failli des tas de choses qui ne sont pas arrivées. Enfin, bon, celui qui a édité les œuvres de Saint Jérôme, c'est l'auteur d'une œuvre immense, et quelqu'un a regardé le portrait d'Erasme qui est au musée de Bâle, peint par Bail le Jeune, un homme d'une gravité extraordinaire, qui a passé sa vie à écrire des choses extrêmement sérieuses. Erasme a sillonné l'Europe, ça a été le premier intellectuel européen, hein. Oxford, Louvain, Bâle, Bologne, Paris, c'était, et il s'était fait fabriquer une écritoire spéciale pour pouvoir travailler sur son cheval. Donc en circulant, en allant de Louvain à... Non, il était sur son cheval, sur son écritoire, et il préparait l'édition des œuvres de Saint-Jérôme. Il faut le faire. Hein. Quelle époque extraordinaire, la première Renaissance. Alors, Erasme, c'est ça, mais en même temps, c'est le grand, je ne sais pas comment dire, théoricien, philosophe du rire, du comique, hein, du choc de la folie. Et une de ses références, c'est Épicure. Épicure, Lucien, dans l'œuvre d'Erasme, il y a une grande part consacrée à la pédagogie, il s'intéressait énormément aux enfants. Bon, puis aussi à la pédagogie, les miroirs des princes, la formation des futurs hommes politiques. Et Erasme est des initiateurs de ce qu'on appelle la pédagogie libérale, en tout cas l'idée qu'on peut instruire en amusant, que ce ne sont pas deux choses alternatives, mais qu'elles vont très bien ensemble. Et ce que Mort a fait, c'est justement mettre en pratique cette idée d'Erasme. Faire quelque chose qui instruit sur l'état réel de la société, en amusant, en présentant l'envers. Alors, bon, Erasme a été, dans son temps, un homme extrêmement célèbre, ses idées ont beaucoup circulé, et en France, l'un des premiers... À en recevoir le message, ça a été Rabelais, qui a introduit le mot utopie dans la langue française. Hein, Rabelais, dans Sous l'Existe, une lettre à Erasme, il l'appelle mon père. Bon, et Rabelais, c'est précisément ça. Hein, c'est le triomphe de l'ironie. Mais alors, l'ironie, ça fait énormément rire, mais en même temps, ça fait peur. Parce qu'on se dit... Tout ce qu'il raconte, évidemment, ça n'existe pas, ça n'est pas possible, mais alors, ce qui existe, du même coup, par comparaison, est terrifiant. Terrible. Je pense que, en tout cas, c'est ce qui a été au départ de la démarche des utopistes. Alors évidemment, ce génie comique et ce génie ironique s'est peut-être un petit peu abîmé au fur et à mesure. Campanella, c'est pas... Enfin, si, c'est drôle. Enfin, Campanella, c'était manifestement un esprit dérangé. Il a passé 25 années de sa vie en prison. Il faut comprendre que dans les conditions de l'incarcération, il est pu effectivement être un petit peu fatigué. Mais il subsiste quelque chose de ce sel, de cet esprit du négatif, dont vous avez vous-même très, très, très justement parlé, qui est une des clés de l'utopie. Pour composer ce livre, je me suis servi comme fil conducteur, j'ai repris à Ernst Bloch le petit refrain de l'opéra de Bertolt Brecht et de Courbet, Ma agonie, etwas fehlt, quelque chose manque. Alors, dans l'œuvre d'Ernst Bloch, qui est au XXe siècle, vraiment le grand penseur de l'utopie, celui qui est allé le plus loin dans l'analyse de ce qu'il a appelé, dans le premier livre qu'il a consacré à cette question, l'esprit de l'utopie. Et l'esprit de l'utopie, il est concentré dans dans cette phrase. Quelque chose manque. Ça ne date pas. Alors, quand on est en face de l'utopiste, on lui dit, bon, oui, ça, vous avez parfaitement raison. Et ça, quoi? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, il n'a pas de réponse. Quelque chose. Ce que Ernst Bloch, alors dans son grand ouvrage, appelle le principe espérance, dans ma formation que j'évoquais tout à l'heure, Ernst Bloch, c'était pas la peine de s'y lancer. C'était amusant peut-être à la rigueur, mais pas impossible à prendre au sérieux. Je me suis quand même aperçu à la langue qu'il y avait, beaucoup à en tirer. Même si c'est aussi comme les utopistes de la première heure, parfois complètement farfelus, bordéliques, cette explosion de prolifération libre, c'est le principe espérance, hein, trois gros volumes dans la traduction française aux éditions Gallimard, c'est un livre océanique, on se perd là-dedans. Mais à travers ça, si on s'engage dans le voyage périlleux à travers ce livre, quelque chose de fondamental, alors, on en revient toujours à ça. Quelque chose manque. Et Ernst Bloch fait une ontologie du quelque chose manque. En développant un concept qui est très intéressant, alors je ne sais pas si c'est un bon concept, hein, mais ça, ce qu'il appelle le possible réel, qu'il distingue du possible objectif. Alors le possible objectif, c'est ce dont on pense que ça peut arriver, et on voit toutes les étapes intermédiaires qu'il faudrait suivre, tous les moyens qu'il faudrait employer pour que ça arrive. Donc c'est quelque chose qui est déjà là, c'est le possible dont Bergson, hein, dans sa conférence sur le possible et le réel, fait une critique tout à fait justifiée. Hein. Moi, je ne suis pas du tout Bergson, hein, mais loin de là. Mais comme j'ai lu la conférence de Bergson sur le possible et le réel, c'est une conférence qu'il est allé faire en Angleterre, à Oxford, et vraisemblablement dans le public, il y avait Georges Bataille, qui à l'époque était attaché culturel à l'ambassade française. Je suis convaincu qu'il a tiré beaucoup parti de ce... bon, je ne suis pas bergsonien, je suis même farouchement anti-bergsonien, mais j'extrais de l'œuvre de Bergson la conférence sur tout ce qui est réel, et j'en reprends à mon compte tous les actes. Je pense d'ailleurs que c'est ce qu'ils font faire de tous les philosophes. Hein. La barbe, l'idée qu'ils tiennent des discours qui se tiennent complètement, alors il faut tout prendre, mais non. On est libre, on peut très bien laisser tomber la critique de la raison pure et reprendre l'essai sur les grandeurs négatives, on peut, etc., etc. On n'est pas forcé, si on s'intéresse à Spinoza, de le suivre dans les cinq parties de l'éthique. Après tout, on peut s'intéresser plutôt à tel passage. Bon, là encore, je m'égare. Mais c'est en utopie, on s'égare. Alors, le possible réel, c'est justement pas ça. C'est impossible qu'il y ait, alors, qu'il y ait déjà là, mais pas au sens de quelque chose qui s'annonce, quelque chose qui va être et qu'on va pouvoir faire sortir du réel, mais c'est quelque chose qui est dans le réel en tant qu'il se présente sous la forme d'un possible non réalisé. C'est-à-dire justement cette alternative dont More, dans son livre génialement construit, avait donné l'idée en présentant ce doublet, la société réelle du présent, et puis cette autre société radicalement différente, et qui en fait est la même. C'est ce qui manque à celle du présent. Hein, c'est le possible réel. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je comprends le concept de Erne Blore. D'après ce que je vous dis, vous pouvez constater que je finis par manifester, après avoir dédaigné l'utopie, m'en être détourné, sans même réfléchir à la question, parce que ça paraissait l'aller de soi. Hein. Marx et Engels expliquent en long et en large que les utopistes sont des penseurs immatures. Ceci dit, quand Marx est venu à Paris en 1844, pendant les 15 mois qu'il a passé à Paris, il s'est nourri de la lecture de Saint-Simon et de Fourier, auxquels il a repris énormément de choses. Alors, vous avez très finement commenté le point d'interrogation du titre de mon livre, vous lui avez même donné des dimensions que je n'avais pas pensées, mais auxquelles vous avez tout à fait raison. C'est bien de ça qu'il s'agit. Ce livre, au fond, est le témoignage d'une découverte sur le tard de quelque chose que j'avais ignoré et de l'effet de surprise que ça m'a produit. Mais alors, il ne faut pas en tirer la conclusion que j'adhère à un système où que je verrais aujourd'hui la possibilité justement de tirer de l'utopie un système de pensée positif. Il est impossible de tirer aucune leçon claire de l'utopie. Et c'est peut-être pour ça qu'elle est utile. C'est justement parce que elle nous produit, elle nous met en présence d'un discours qui est extraordinairement troublant. Ce que vous avez dit sur Fourier était très intéressant. Quand vous avez dit, j'aimerais pas tellement vivre dans la... sur le moment, vous m'avez surpris, parce que moi, en lisant Fourier, c'est quand même assez fatigant. Hein. Très, très fatigant. Dans l'emploi du temps des gens qui vivent en harmonie, se lèvent à 3 heures du matin et se couchent à 10 heures du soir. Et dans l'intervalle, ils n'arrêtent pas. Ils n'arrêtent pas en changeant toutes les heures, voire toutes les demi-heures d'activité. Hein, cueillette des fraises, écarissage des bois exotiques, travail à l'imprimerie, etc., etc. Et on change tous les jours, hein, puisque la journée, le soir, avant qu'on aille se coucher, se termine par une ultime séance commune à tout le monde, ça s'appelle la bourse. Là, ils se rencontrent tous, ils se retrouvent tous pour négocier le programme du lendemain. Donc ils s'inscrivent, hein, cueillette des fraises, culture des boisures, épluchage des légumes dans la cuisine, enfin, etc., etc. Et alors, ils prévoient que quand tout ça sera, ils pourront se lever de plus en plus tôt et se coucher de plus en plus tard, et à terme, ils finiront par ne plus dormir du tout. Hein, un programme, après tout. Alors, plus dormir du tout, ça peut vouloir dire aussi dormir tout le temps. Et ce que décrit Fourier, c'est complètement onirique. Hein, ce qu'il traduit lui-même avec un humour. Alors, c'est Kerdak, hein, c'est un discours très sérieux, mais derrière lequel il y a, évidemment, tout ça est une gigantesque foutaise. Et si on se laisse prendre au piège, évidemment, on s'égare. Alors, c'est ce qu'il appelle le charme. C'est le mot qui revient à toutes les pages de Fourier, le charme. Si on voulait résumer Fourier, je dirais la vie que nous menons en civilisation, comme ils l'appellent. Civilisation, c'est ce qu'on a appelé la société bourgeoise, qui donne une description vitriole, digne des mythologies de Barthes. Eh bien, ça manque de charme. C'est parfaitement vrai. Si ça a du charme, c'est vraiment par chance, c'est grâce aux efforts tout à fait personnels que nous devons faire à certains moments, mais que ça ait du charme tout le temps, c'est... Bon. Alors, Fourier, je l'ai lu il y a 3 ans, comme j'ai l'habitude de lire des livres auxquels je m'intéresse et que je prends au sérieux, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, et en prenant des notes. Ce que je n'avais jamais fait auparavant. Et ce que j'avais jamais fait à propos des autres textes. Tout le monde, et je ne m'excepte pas de ce tout le monde, a des idées générales sur l'utopie. Tout le monde a des idées générales sur ce qu'on peut trouver chez Fourier. Et je les avais, ces idées générales. Mais en ouvrant les livres et en les lisant La science de la logique de Hegel, ou les mots et les choses de Foucault, du souverain ardu qu'il faut suivre ligne à ligne sans manquer à une transition, parce qu'alors c'est foutu, j'ai découvert quelque chose que je ne soupçonnais pas. Et c'est de cette découverte que j'ai essayé de rendre compte en fournissant une espèce de cliché instantané. Bon. Je pense qu'il est plus raisonnable que je m'arrête. J'ai pas répondu à toutes vos questions, mais c'est intéressant de les avoir soulevées. Et les réponses que je pourrais leur apporter ne seraient pas forcément intéressantes. Mais alors, je suis très très curieux de savoir ce que Frédéric va dire.
Mais on a déjà eu l'occasion d'une discussion autour de l'utopie, donc dans un séminaire organisé par des anthropologues sur les utopies de la nature, Vanessa Manfron et Marie Rouy qui sont là aujourd'hui. Donc, on continue cette discussion à partir du livre qui est maintenant visible. Et aussi parce que quand ces textes ont été d'abord disponibles sur Internet, donc publiés à la suite du groupe de travail qui s'est réuni, que j'ai suivi depuis le début, et qui se réunissait à ce moment-là, donc en 2008-2009, moi j'étais à Hong Kong, pour des enquêtes sur la grippe aviaire. Donc voilà, j'ai un peu lu cette description de l'utopie avec en arrière-plan une description de ce que j'avais sous les yeux d'un lieu un peu éloigné et assez bizarre aussi. Donc je vais un peu insister sur cette question de la nature. Alors le livre de Pierre Macheret reprend donc le projet d'une histoire du discours utopique qui avait été lancé par 2 ouvrages en méthode divergente. Celui de Pierre-François Moreau, Le récit utopique, paru chez PUF en 1982, et celui de Karl Mannheim, Idéologie et utopie, paru en allemand en 1929, traduit en français en 2006, avec une traduction partielle en 1956. Le premier, donc celui de Pierre-François Moreau, adopte une méthode structurale, repérant des traits constants du discours utopique, pour soutenir la thèse selon laquelle l'utopie constitue un roman d'État, c'est-à-dire un déplacement dans l'ordre de la fiction littéraire de procédés politiques qui se mettent en place avec l'État moderne. Le second, celui de Karl Mannheim, adopte une méthode génétique qui fait se succéder des formes de l'esprit utopique, celui-ci étant défini à la suite de Ernst Bloch comme une étincelle dont l'idéologie fait retomber la force explosive et qui se relance incessamment à travers le millénarisme prophétique, 16e siècle, le libéralisme humanitaire, 18e siècle, le conservatisme contre-révolutionnaire et le matérialisme dialectique. Donc, les étapes définies par Mannheim. La thèse de Pierre Macheret est énoncée à plusieurs reprises dans les termes de Pierre-François Moreau, quoique en les détournant. le discours utopique n'est pas un roman de l'État, mais un roman de la nature. C'est-à-dire qu'il exprime, avec les moyens de la fiction littéraire, la puissance politique qui s'invente dans les sciences de la nature au XVIe siècle et qui ne s'accomplira qu'avec la découverte du social au XIXe siècle. Si Pierre Marchais ne formule jamais sa lecture des discours utopiques dans les termes de la philosophie de l'histoire proposée par Mannheim, donc je sais à l'avance qu'il va réfuter ou refuser la systématisation de son propos que j'ai essayé de proposer quand même pour la discussion. Le retour régulier de la formule de Bloch au cours du livre, Edward Felt, quelque chose manque, autorise à poser une question qui animera ma lecture. Si le discours utopique est le roman de la nature, que manque-t-il à la nature pour qu'elle ne puisse exprimer sa puissance politique que dans des utopies, discours nécessairement décalés par rapport à la réalité? Je voudrais montrer que le livre de Pierre Marchais permet de répondre à cette question en repérant dans les discours utopiques un écart entre la nature et le sauvage qui impulse le mouvement historique de ce discours dans la modernité. Et donc, de même que le livre de Mannheim voyait dans l'histoire du discours utopique une oscillation entre l'explosion révolutionnaire et le déterminisme scientifique, problèmes qui ont concerné le marxisme tout au long du XXe siècle, il me semble que le livre de Pierre Marchais permet de lire l'histoire du discours utopique comme une tension entre le libéralisme et le colonialisme. Enfin, c'est l'hypothèse que je voudrais proposer. Soit que je vais être soin tout à fait les propositions de Mathieu Cotton-Ville tout à l'heure. Et donc je vais essayer de la pousser plus loin à travers la question du colonialisme qui parcourt en fait toute la lecture des utopies. Il me semble que ce problème donc du lien entre libéralisme et colonialisme, ou autrement dit entre nature et sauvage, ce problème est encore le nôtre, et le marxisme peut l'éclairer, et Pierre Marchais montre que ce problème traverse les œuvres de Maure et de Fourier d'une façon qui en éclaire considérablement, en renouvelle considérablement la lecture. Je propose maintenant, je refais le parcours, hein, avec différents éclairages, on aura ainsi une idée du éclairage qui sera ensuite soumise à votre discussion. Lorsque Maure forge la notion d'utopie dans le titre de son ouvrage paru en 1516, il expose en effet les règles du bon gouvernement à travers le détour exotique d'une société éloignée. Pierre Marchais note que le discours de Maure mime nos actuelles retentions ethnographiques, c'est-à-dire qu'il décrit un monde autre pour mettre en lumière l'écart qui le sépare d'une autre, avec le conseil avisé d'Erasme pour encore dramatiser l'écart. Et il construit cet écart, donc exotique, si on peut dire, ou ethnographique, au moment même où Montaigne invente un mode sceptique d'écriture de soi dans la rencontre avec des cannibales. Au triste tropique de Lévi-Strauss, inspiré, on sait, de Montaigne, de Léry, de l'écrivain du XVIe siècle, de la rencontre avec les cannibales, répond ainsi ce que Pierre Marchais appelle les radiotropiques de Maure. Mais si le livre de Maure peut être dit ethnographique, c'est aussi au sens où il décrit cette autre société dans les moindres détails de la vie quotidienne, comme le fera Malinowski au début du XXe siècle lorsqu'il inventera l'enquête de terrain, qui est donc la méthode aujourd'hui de cette discipline qu'on appelle l'anthropologie. C'est là un point central dans la lecture que fait Pierre Marchais du discours utopique. Celui-ci manifeste une extrême attention aux petits liens de la vie humaine, ce qui le rend à la fois littérairement passionnant et politiquement inquiétant. La vie quotidienne dans le discours utopique, c'est surtout l'alimentation et la sexualité. Un petit peu de théâtre, mais c'est surtout ça. Alors que le discours politique du bon gouvernement pose des problèmes de souveraineté, qui doit exercer le pouvoir et quelle est sa légitimité, le discours utopique pose des problèmes qu'on peut dire biopolitiques, je crois que le terme est employé à la suite de Foucault. Comment réguler la vie quotidienne pour que le plaisir de tous soit maximisé? Un tel problème, qui justifiera dans l'économie moderne le modèle du marché, est résolu dans l'utopie sans recours à la monnaie, c'est récurrent chez tous les auteurs, mais par une forme archaïque d'échange ou de partage, analogue aux prestations de dons et de contre-dons décrites par Mauss. Ces prestations sont régulées par la surveillance des plus âgés, qui autorise les plus jeunes à parler au cours des repas pour mieux pouvoir connaître leurs opinions, ou qui compose les rapports entre les corps pour harmoniser la reproduction. Ainsi se forme dans l'utopie de Mauss une société de surveillance, c'est le mot que vous employez, où l'opinion publique regarde tous portés sur chacun, règle les problèmes biopolitiques. Loin d'une dictature des sages à la Platon, il s'agit plutôt, selon Pierre Macherès, d'une morale naturelle où chacun poursuit librement son plaisir sous le regard de tous. L'utopie de Mauss est donc fondamentalement optimiste et libérale. Elle est, je cite, fondée sur la conviction que la nature est bonne en elle-même et que le mieux est de la laisser développer toutes les vertualités qu'elle porte en soi dès le départ. C'est le tournant bergsonien du livre. Vous avez les apports, les moments bergsoniens du livre. Sans adjonction extérieure qui ne pourrait qu'en perturber les sens idéales. Mais cette nature ne peut se réaliser qu'en posant à l'extérieur d'elle-même un résidu de sauvagerie. Le bon gouvernement d'utopie ne s'est pas formé de rien. Il résulte de la colonisation d'Abraxa, dont le nom porte la marque de la négation, Abraxa, par une figure de sage législateur appelé donc Utopus. Je cite. À l'origine d'utopie, il y aurait donc eu une conquête ou une annexion de type colonial. Cette origine coloniale revient à travers l'étonnante présence d'esclaves, notamment pour fournir l'alimentation aux festivités des repas collectifs, esclavage que Mauss ne peut justifier qu'en disant qu'il s'agit de criminels issus soit d'utopie, soit de pays étrangers qui les ont donc condamnés à mort, qui auraient donc fui. Enfin, Pierre Macherès expose les propositions de Mauss sur les relations extérieures entre Utopie et ses voisins, un problème auquel, en tant que diplomate de Henri VIII, Mauss était sensible. Cette politique étrangère est déterminée surtout par le risque de la surpopulation, ce qui est raisonnable dans une société profitant si bien de la vie. Risque qui contraint les habitants d'Utopie à former des colonies à l'étranger et à faire la guerre à ceux qui résistent à cette colonisation. On voit ainsi formuler, à travers le détour de l'utopie, la politique coloniale de l'Angleterre, justifiée par les règles du libéralisme et de la morale naturelle. Je rappelle que Hong Kong a été fondée par les Anglais parce que les Chinois refusaient d'acheter de l'opium qui était produit en Inde. On comprend alors l'humour de Rabelais quand, introduisant en français la notion d'utopie, il propose à l'inverse que les habitants d'utopie soient colonisés par les habitants de dystopie. Donc ces figures de colonisation sont, dans le discours littéraire de l'utopie, toujours imperméables. La lecture que Pierre Macherès consacre à la Nouvelle Atlantide de Bacon, publiée un siècle après l'utopie de Mauss, en 1827, permet de comprendre comment les sciences de la nature vont apporter leur soutien à cette morale naturelle et ainsi justifier une colonisation plus insidieuse. La Nouvelle Atlantide, ou Ben Salem, est en effet décrite par Pierre Macherès comme un centre de recherche scientifique, un CNRS, où les hommes sont dotés du matériel expérimental leur permettant d'arracher ses secrets à la nature. Si l'activité scientifique est représentée comme un viol, fait à la fois de séduction et d'affrontement, la fameuse formule de Bacon, l'homme de commande à la nature quand lui obéissant, elle se poursuit par une violence à l'égard de tous ceux qui ignorent la vérité, ce que Bacon appelle la guerre avec les idoles. Mais cette violence est en fait insidieuse et cachée. Elle est le fait de ce que Bacon appelle les marchands de lumière, merchants of light, qui, je cite là Bacon cette fois-ci, cité par Pierre Macherès, qui voyagent à l'étranger et qui nous rapportent des livres, des échantillons et des exemples d'expérience de toutes les régions du monde, ceci en se faisant passer pour des gens d'autres nationalités, puisque nous cachons la nôtre. Ah donc, et Pierre Macherès montre que toute le...
Il y a certainement ici quelqu'un qui vient de la Nouvelle Atlantide de Bacon, c'est extrêmement un grand secret,
Il n'y a même pas de repère
pour là, si par hasard, il y aurait quelque chose à tirer utile pour les progrès de la science de ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Bacon, qui était cinglé aussi, était hanté par les sociétés secrètes.
Alors, poursuivant donc cette réflexion de Bacon, Pierre Macheret imagine ce que Bacon aurait pu dire de la colonisation. Et donc il suppose que les bateaux qui transportent les marchands de lumière auraient pu déverser sur le reste de la Terre ces excédents de population qui en constitueraient ainsi non plus la face lumineuse mais la part maudite. La nouvelle Atlantide, quoique localisée dans un lieu secret, est ainsi présente sur la Terre entière où elle exerce ce que Pierre Macheret appelle une emprise latente.
C'est fantôme.
Par la surveillance continue qui exerce partout ses agents, visibles, les Merchants of Light, autant qu'invisibles, les damnés, les excédents, les restes en quelque sorte de la nouvelle Atlantide. On peut bien dire alors que Bacon invente ce que Saint-Simon appellera le pouvoir spirituel et Bachelard la cité scientifique, mais Pierre Macheret en signale la face obscure, celle qui justifia la colonisation du globe au nom de la science expérimentale. Je signale simplement que la revue Annales a consacré un numéro aux utopies coloniales qui accorde une grande place à cette dimension d'expérimentation dans les colonies et qui se tiennent des colonies comme laboratoire pour la modernité. La lecture proposée ensuite de la cité du soleil de Campanella, publiée en 1602, approfondit alors la conception de la nature sous-jacente à ce discours utopique. On peut penser en effet que la nature dont parlent les penseurs de la Renaissance n'a rien à voir avec la nôtre. Ce serait finalement l'objection pour se débarrasser du discours utopique. C'est une nature qui est faite de correspondance, celle que Foucault a étudiée dans Les mots et les choses à travers la théorie des signatures, celle que Blumenberg a étudiée dans La lisibilité du monde à travers le thème du livre divin, ou des deux livres, le livre de la nature et le livre révélé. La nature qu'évoque Campanella n'a certes rien à voir avec la nature mathématisée qui se forme au même moment chez Galilée et Descartes.
Rien à voir. Ils se connaissaient, hein, ils se sont rencontrés. Bon, pardon.
Deux penseurs contemporains de Campanella, ils qui semblent l'avoir considéré comme un illuminé.
Ah oui, oui.
Donc, la nature mathématisée qui est encore la nôtre.
Mais le soleil, c'est parce que Campanella a adhéré très tôt, l'un des premiers, au système héliocentrique. Et non seulement adhéré, mais il l'a fait savoir dans un livre qu'il a publié. Alors, Galilée a considéré que l'appui de Campanella, au fond, n'était pas tellement intéressant et le desservait plutôt, parce que Campanella était quand même connu pour les débordements intellectuels dont il était familier. Mais enfin, il a été un des... Et c'est pourquoi il appelle son état imaginaire la cité du soleil. Et Campanella, qui a passé les toutes dernières années de sa vie en France, où il avait été appelé par Richelieu, parce que Campanella pratiquait l'astrologie suivant un système qui lui était personnel, qu'il avait mis au point, et Richelieu se faisait tirer son horoscope par Campanella. Quand le futur Louis XIV est né, Campanella a été convoqué au Louvre, on lui a présenté l'enfant nu, il l'a regardé ses faces, et il a dit après son examen, il sera très luxurieux, et il sera le roi de la cité du soleil. Et c'est de là qu'il s'est pas trompé sur les deux points. Louis XIV a bien été le roi soleil, appellation qui lui est venue, qui lui a été donnée par Campanella. Alors, c'est très intéressant parce que Campanella a une idée de la société en tant qu'elle est complètement immergée dans le système cosmogonique de la nature. Au fond, la société, c'est quelque chose qui fait partie du fonctionnement du système solaire. Hein, d'où cette fixation. Alors, chez lui, ça devient délirant. Excusez-moi.
Donc, si la conception de la nature de Campanella n'est apparemment plus la nôtre, son utopie révèle quelque chose de notre imaginaire politique. Il se concevait lui-même comme un prophète, d'où le nom qu'il s'est donné qui signifiait « clochette ». Et, comme vous l'avez rappelé, il a entouré de ses augures le futur Louis XIV, d'où son nom de roi soleil. Ce que nous révèle la lecture de la cité du soleil de Campanella, c'est donc que les utopies classiques, alors qu'elles dessinent une nature idéale réalisant prospectivement toutes ses virtualités, s'adresse toujours à un souverain qui leur donnera une origine ou un point d'ancrage. C'est pourquoi elles prennent toujours la forme d'une île, l'actuel Sri Lanka pour Campanella, où elles se réaliseront à partir... Je me demande si c'est pas parce qu'il y a l'Inde et... Bon, enfin, pourquoi Sri Lanka? Le Sri Lanka en face de l'Inde, origine de la sagesse.
C'est bien dans l'autre hémisphère, Sri Lanka.
Oui.
Et utopie, on interprète trop rapidement le mot comme nulle part. Non, ailleurs. Ailleurs, mais on ne sait pas où. Quand c'est pas hasard si ça date de la première Renaissance, le mot utopie, les débuts des grands voyages, des explorations. Donc, l'utopie, elle était de l'autre côté du monde. Là où sont, hein, vous savez, dans les cartes de l'époque, les terres inconnues. C'est une terre inconnue. Et à une époque où, dans la pensée des gens, le réel et l'imaginaire ne sont pas séparés par une frontière nette, mais communiquent entre eux. Hein. Quoi, dans les traités de zoologie du XVIe siècle, les animaux fantastiques, la licorne, on voit pas très bien la différence. Hein, si on avait pu mettre une illustration dans le livre, j'avais mis dans le texte, j'avais pris cet extraordinaire dessin de Dürer qu'il a fait au cours d'un voyage à Bruxelles, où il a vu dans le zoo royal, il y avait un rhinocéros. C'est vraisemblablement le premier représentant de cette espèce qui était présentée en Occident, dans des... Alors, il a aussitôt fait un dessin minutieux, d'une fidélité extraordinaire. Et en regardant le dessin de Dürer, on comprend que c'est le témoignage de quelque chose qu'il a vu, mais en même temps qu'il est complètement imaginaire. C'est un animal fabuleux. Et les deux communiquent. Dans la pensée de cette époque, il n'y a pas... Et quand Cervantes écrit le Don Quichotte, c'est précisément pour développer ce thème. Le Don Quichotte est quelqu'un pour qui il n'y a pas de frontière nette entre la fiction et la réalité, et il navigue entre les deux. Ce qui produit un effet corrosif absolument extraordinaire, un effet d'ironie extraordinaire. Excusez-moi.
Je retiens que les utopies classiques prennent la forme d'une île, d'un ailleurs plutôt que d'un non-lieu, hein, d'une île où elle se réalise à partir d'un centre avant de se diffuser dans le reste du monde. Avec ce mécanisme d'excédent de population qui va déborder, qu'on ne trouve pas chez Campanella quand même, mais qui serait donc présent chez les deux précédents. D'où la tension dans le discours utopique entre l'exaltation d'une nature autosuffisante et l'appel à une volonté politique capable de la réaliser. Chez Campanella, qui semble avoir poussé le discours utopique classique à la pointe de ses contradictions, ce qui justifie l'intérêt que vous y portez, cette tension est visible dans l'écart entre une conception solidariste à l'extrême, effectivement la nature est socialisée jusqu'au bout, au point même que Campanella abolit les familles que Mort avait pourtant gardées, et une conception hiérarchique qui culmine dans un étrange rituel sacrificiel où un homme s'approche de plus en plus du soleil jusqu'à ce qu'au moment où il est sur le point d'être brûlé, on le retire et on le guérit en quelque sorte. C'est un quasi-sacrifice. La question que pose alors Pierre Masseret est la suivante. En quoi la conception du social, qui apparaît donc à la fin du XVIIIe siècle, résout-elle cette tension entre nature et politique dans le discours utopique? On saurait dire simplement que la notion de société abolit en elle-même cette tension parce que elle conçoit les rapports sociaux sur le modèle des fonctions physiologiques. C'est ce que montre, il me semble, le texte consacré en annexe aux lettres d'un habitant de Genève de Saint-Simon, aucun des premiers textes de Saint-Simon. L'avancée des sciences entre Bacon et Saint-Simon permet de mieux comprendre comment la connaissance de la nature favorise le bon gouvernement. En prévoyant le cours des phénomènes, une idée de prévision qui n'était pas centrale dans la méthode expérimentale de Bacon, en prévoyant le cours des phénomènes, la science fait voir la contribution de chaque organe à la vie de l'ensemble et ainsi constitue ce que Saint-Simon appelle un pouvoir spirituel capable de l'orienter. Mais une telle vision de la nature sociale reste, chez Saint-Simon, attachée à un centre. Et en fait, on voit que les capitales des grandes nations européennes, Paris, Londres, Berlin, remplacent les îles des utopistes de la Renaissance. Mais il y a bien toujours un saut de la nature ordonnée en un lieu aux sauvages qui l'ignorent et qui doivent l'apprendre. Saint-Simon l'exprime dans un langage qui est celui du prophétisme religieux. Je cite Saint-Simon, cité par Pierre Maffray, le fondateur de la religion, il s'agit de la religion saint-simonienne, sera le directeur en chef des armées des fidèles, ses armées soumettront les enfants de Caïn, donc c'est les sauvages, les nègres, hein, il y a même un traité vraiment raciste à l'égard des nègres, une proposition, c'est pas raciste. Ses enfants soumettront les enfants de Caïn à la religion, c'est-à-dire à la science en fait, et feront sur toute la terre les établissements nécessaires à la pureté des membres du conseil de Newton, qui est donc le CNRS organisé par Saint-Simon, dans tous les voyages qu'ils jugeront utiles de faire pour les progrès de l'esprit humain. En gros, cette idée de voyage, d'apprentissage de la science par les autres peuples. On voit ainsi justifier à l'avance la politique coloniale du Second Empire, où des armées d'entrepreneurs libéraux étaient accompagnées par des prêtres saint-simoniens en Égypte ou en Algérie. À la façon dont les États-Unis d'Amérique, admirés par Saint-Simon, conquéraient au même moment l'espace des Indiens. Au regard des ambiguïtés du discours utopique de Saint-Simon, on comprend alors l'intérêt qu'il a trouvé à Fourier. Fourier ne s'est pas contenté de concevoir donc une utopie sociale par-delà l'opposition entre nature et politique. Il a en fait, je crois que c'est ce qui fournit l'excitation du livre, et puis Mathieu en a parlé tout à l'heure, il a décrit une utopie dépourvue de centre. Ce qui l'a conduit à lever l'obstacle sur lequel butait le discours utopique, l'écart entre la nature et le sauvage. Ce qui permet de concevoir cette utopie à la fois décentrée et sauvage, c'est la notion de série, dont Pierre Macherey montre toute la portée politique, et dont sans doute Guillaume Cybertamon nous parlera si nous parlions. Chez Fourier, les passions humaines ne sont pas rapportées à un centre, qui les régulent selon l'ordre d'une nature, elles sont composées les unes avec les autres selon des séries dont l'ensemble tisse ce que l'on peut appeler, à la suite de Lévi-Strauss, une pensée sauvage. J'ai toujours pensé à la description de la pensée sauvage par Lévi-Strauss en lisant la description de
Fourier. Il ne parle pas de Fourier. Il a dû passer à côté, mais ça l'aurait beaucoup intéressé.
Alors justement, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Prenons en effet la culture des poiriers, dont Pierre Maffray montre l'importance pour la compréhension de la pensée de Fourier, et qui donne en même temps le sens de l'humour et du détail de cet auteur. Dans la culture des poiriers se résout en même temps le problème de l'alimentation et de la sexualité, dont on a vu le caractère central dans l'utopie de mort. La question posée par Fourier n'est pas comment organiser les repas collectifs et les rapports sexuels pour que la quantité de plaisir dans la société soit maximisée. Elle devient comment distinguer les poires entre elles pour composer des séries dans les cultures de poiriers. On distinguera ainsi des poires dures à cuire, cassantes, fondantes, compactes, farineuses, et on composera des groupes à se rapporter à ces qualités différentes pour les cultiver. On est bien là dans l'ordre de ce que Lévi-Strauss appelle une pensée sauvage qui constitue des classifications sociales à partir de petites différences qualitatives. Fourier oppose lui-même cette composition de séries à la pensée des civilisés selon un renversement qui, si l'on suit Pierre Maffray, fait des civilisés eux-mêmes des sauvages et accorde aux enfants ou aux sauvageons les plus prompts à faire ces petites distinctions, le plus grand raffinement. Je cite Pierre Maffray, Fourier se gausse des civilisés qui ne disposent que d'une gamme faiblement étendue de goûts dominants, assumés comme tels dans leur spécificité, parce qu'ils ne savent pas faire ce genre de différence, qui sera au contraire cultivé au plus haut point en harmonie, où il servira de base à l'organisation du travail, une organisation qui se doit de privilégier, dans tous les cas de figure, le compliqué par rapport au simple, du simple qui n'est jamais, en fin de compte, que de l'abusivement simplifié, du sauvagement homogénéisé. Et là, on dirait du Lévi-Strauss, hein, le simple n'est jamais que du complexe simplifié. Qu'est-ce qui a permis à Fourier d'atteindre ainsi le sommet du discours utopique, en cultivant le détail non pour le soumettre à la surveillance d'un centre, mais pour le plaisir de la composition? On pourrait alléguer le fait, déjà noté par Raymond Queneau, que Fourier a travaillé au bureau de la statistique de la préfecture du Rhône. On verra alors dans sa pensée sérielle une réflexion sur l'inscription des chiffres dans le conditionnement matériel d'une société. À la manière de Tarde, inaugurant des statistiques morales depuis Montauban, j'espère que Guillaume pourra nous en parler, et de façon très différente de Durkheim, comparant les statistiques des suicides depuis Paris, c'est-à-dire depuis une capitale. On peut aussi voir l'effet de cette anecdote que Fourier place à l'origine de sa réflexion, lorsque son patron conserva du riz pour faire monter les prix, c'était pas la Révolution française, jusqu'à être obligé de le jeter une fois qu'il fut gâché. Il y a chez Fourier une hantise du reste, une tentative d'épuiser le réel par des séries, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qui puisse servir de support à un appétit de conquête ou à une volonté de puissance. Ainsi, de la journée de travail, on en a parlé, qui est divisée à l'extrême, jusqu'à réduire l'idée même de repos. Sans doute y a-t-il quelque chose d'inquiétant et d'épuisant dans cette utopie sans reste, qui résonne avec les problèmes de ce qu'on peut appeler le néolibéralisme. Pierre Machin note lui-même que, je cite, Fourier professe une sorte de libéralisme, en ce sens qu'il écarte la possibilité d'une mainmise ou d'un contrôle exclusif de l'État sur le déroulement des affaires publiques. Mais le plus remarquable est que Fourier propose une utopie, libérale si l'on veut, qui ne débouche pas sur un projet colonial, précisément parce qu'elle abolit l'écart entre la nature et le sauvage. Peut-être peut-on y voir le fait de l'activité de voyageur de commerce, qui a occupé Fourier une partie de sa vie. L'utopie de Fourier n'est pas proposée à un souverain qui doive la réaliser dans un lieu séparé avant de l'imposer au reste du monde. Elle est véritablement nomade, sans lieu, parce que la pensée sérielle peut s'enclencher à partir de n'importe quelle situation. Je conclue. De quoi, demandait initialement, la nature manque-t-elle pour qu'elle ne puisse exprimer sa puissance politique que dans des utopies? On peut répondre à présent. La nature manque d'un lieu. Parce que c'est une conception métaphysique qui ne s'ancre nulle part. Je reprends l'idée de Kant selon laquelle la nature est un concept métaphysique, en fait, qui n'a en lui-même aucune signification positive. Et c'est pour résoudre ce problème que le discours utopique a dû la localiser dans une île où elle réalise toutes ses virtualités, sous le regard bienveillant d'un pouvoir spirituel. Or, l'utopie de Fourier parvient à tenir la position d'une pensée sans lieu, nomade, véritablement sauvage, qui s'enclenche à partir de la moindre distinction apparaissant dans le réel. C'est bien à tout moment et en tout lieu que l'opération utopique peut commencer ou recommencer, sans avoir besoin de l'ancrer dans une origine toujours entachée de violence. Au début de son ouvrage, Pierre Macret discute le diagnostic de François Furet, selon lequel notre époque se caractériserait par le désenchantement à l'égard de l'élan utopique. On ne peut en effet partager l'idée de Furet et, semble-t-il, de Mannheim, selon laquelle le communisme serait la dernière utopie. J'ai essayé de montrer, en suivant la lecture de Pierre Massey, que le libéralisme, dans la forme particulière que lui a donnée l'Angleterre puis la France, a lui aussi produit des utopies, et que celles-ci se sont réalisées en grande partie dans un cadre colonial, à travers une articulation toujours ambiguë entre nature et sauvage. Il vaudrait la peine de suivre cette hypothèse pour analyser les nouvelles utopies qui se formulent aujourd'hui autour de la nature. Mais la réponse de Pierre Machet ne se limite pas à rouvrir un champ d'analyse, empirique en quelque sorte, un champ de travail. Le point d'exclamation de l'utopie signifie non seulement qu'il faut de l'utopie, mais qu'on en trouve partout, dans chaque rencontre de la vie quotidienne. Donc ce point d'exclamation, il me semble qu'il ne faut pas le lire seulement comme un cri ou un appel, comme on pourrait dire de l'air ou de l'eau ou du possible, comme dirait Kierkegaard, du possible sinon j'étouffe, mais plutôt au sens où on pourrait dire des oiseaux, des poissons. Ce sens, cette utopie est effectivement présente partout.
Non seulement la reconstruction je crois que vous avez employé le mot, l'élu que vous avez proposé de mon travail ne me choque pas, mais elle me séduit beaucoup. Ce que vous avez fait, au fond, je suis tout à fait intéressé, c'est de relire. Vous l'avez bien lu, hein, je vous remercie, vous aussi. Non mais, vous savez, c'est pas toujours le cas.
On a été bien formé, vous savez.
Bon, et ça me fait plaisir. Hein. Alors, vous l'avez relu en fonction de vos intérêts personnels, sous votre angle. Hein, d'anthropologue, vous avez fait une lecture ethnographique. Vous n'avez pas du tout eu ce projet en tête, hein, mais je constate en vous écoutant, ça marche très très bien. Et vous n'avez pas du tout remanié, on a senti une torsion, une déformation, le contenu de mon livre en faisant rentrer dans cette perspective, au contraire, vous l'avez éclairé. D'une manière qui est tout à fait juste. Hein. Donc, moi, je suis vraiment, j'étais très content en vous écoutant. Je suis très content que tous les deux, vous ayez attiré l'attention sur la chose qui, pour moi, était effectivement la plus importante, c'est-à-dire cette question du détail. Ce que nous apprend l'utopie, c'est que tout se joue sur le plan du détail. Toutes les grandes constructions, les grands systèmes, bon, c'est très intéressant. On peut les démontrer, ils fonctionnent plus ou moins, mais au fond, la réalité de notre existence, elle se joue, non pas au jour le jour, mais à la minute près, sur des questions de détail. Et ce qu'on apprend en lisant les utopistes, c'est ça. Parce que ils ont employé pour développer leurs idées, sont des philosophes à leur manière, ils ont une certaine vision de la réalité humaine, mais ils ont utilisé les moyens de la fiction littéraire. Et on ne peut pas écrire une fiction sans donner les détails. Hein. C'est ça l'intérêt de la chose. Et alors ça, sur ce point, ils sont tous d'accord, finalement. Quelle que soit la différence de leurs orientations, de leurs options, ils sont tous de grands obsessionnels. Hein. Mais justement, leurs obsessions ne sont pas les mêmes, donc elles les séparent. Il y a un point sur lequel ils sont d'accord, c'est celui-là. C'est que nous ne faisons pas assez attention à tous ces minuscules problèmes, à toutes ces... Au fond, ce qui devrait nous retenir le plus nos attentions, c'est la vie quotidienne. Elle l'avait consacré, vous avez fait allusion, à un autre livre quelques années auparavant. Je n'aime pas du tout, pour parler de ça, l'expression qui est pourtant très souvent en circulation, vie ordinaire. Parce que justement, le quotidien n'est jamais ordinaire. Et il est toujours... Je reprends votre idée du dilemme ambigu, toujours prêt à basculer dans l'extraordinaire. C'est là que se jouent les vrais problèmes, qu'on est toujours sur le bord. Alors, c'est pour ça que, par exemple, les formules très très de Foucault contre l'utopie, il oppose l'hétérotopie à l'utopie, l'hétérotopie à laquelle il a consacré par ailleurs un très très beau texte, un très intéressant, que je ne connaissais pas d'ailleurs, comme il vient d'être réédité, et se trompe, parce que justement l'utopie elle est hétérotopique de ce point de vue. Hein. Alors, ce que vous faites, c'est interpréter l'hétérotopie dans le sens des rapports coloniaux, la vision de l'étranger, ce que c'est que l'autre, le sauvage, on est en plein dans les problèmes. C'est le représentant de la Nouvelle-Atlantique qui est en train de téléphoner.
Si je peux juste faire une remarque sur ce texte précis de Foucault, à mon sens, c'est à partir de ce qui m'intéresse tout à l'heure. Lorsqu'il parle d'hétérotopie, c'est d'utopie qu'il parle. Ce terme d'hétérotopie qui forge, à mains égards, les hétérotopies qu'il écrit, ce sont les colonies. Donc en fait, ce sont des utopies. Mais le terme d'utopie est impraticable. Il ne peut pas l'employer, pour des raisons d'époque, donc il ne peut pas s'en servir.
Alors, moi, j'adhère complètement à votre propos. Hein. Non seulement j'adhère, mais je suis comblé. intéressant. Vous avez vu l'un et l'autre dans ce livre ce que j'avais voulu y mettre, ça ne va déjà pas de soi, donc j'en suis très satisfait, mais vous avez même vu des choses que je n'avais pas pensé à y mettre et dont en vous écoutant je me dis qu'elles y sont peut-être. Alors là, ma satisfaction est en borne. Hein, en tant qu'auteur, je ne peux qu'être.
Juste une remarque d'abord et puis une question générale. Sur à propos de ce que j'ai écrit, je dirais que ce l'ensemble qui n'avait pas de lieu à cause du phalanstère.
Ah ben il y en a partout.
Oui. Le phalanstère est quand même local, est un lieu qui est fermé.
Ah non, c'est pas fermé, oh là là. Oh non, non, c'est pas fermé. Non, non, on entre et on sort tout le temps.
Vous savez que l'ancien, c'est quand même quelque chose de relativement...
Non, non, c'est la ville à la campagne. Hein. On est tout le temps dehors et on ne sait pas... Et...
Oui, oui. Chez Coudon, il y a un atelier, chez Ville à Paris-en-Fer, chez Pizarre Coudon, il y a une industrie. C'est-à-dire que tous les sociologues de ce type, justement par opposition... aux économistes et donc un lieu qui est lié à la hiérarchie. Le problème étant que effectivement vous pourriez éliminer la hiérarchie grâce à la hiérarchie sphérique. Alors il y a un point, ça c'était une remarque. L'autre remarque c'est l'importance de la cohérence quand même chez Fourier. Je connais très très mal, mais je pense à une chose, un principe de cohérence. D'abord le mot désir qui n'a pas été. C'est important, fondamental, c'est le moteur, hein, chacun, c'est la conformité au désir à chaque instant qui est ce qui va faire satisfaction. C'est pour ça que c'est proche de l'idéologie du désir, voire d'une idéologie du marketing, ça fonctionne comme ça. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce qui garantit l'harmonie. Alors je ne sais pas, parce qu'on parle d'harmonie et d'harmonie, or l'harmonie, me semble-t-il, c'est juste.
Qu'elle se renégocie tous les soirs à la séance de bourse.
Ça, c'est une chose. Il me semble que dans le texte, il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a Dieu. Et il y a un Dieu qui garantit, il y a un Dieu garant quelque part. Okay. Il existe. Donc c'est structurel.
Oui, mais.
Et on parle, alors, ça m'amène à ma question.
Il n'en croit pas un mot.
Mais il faut qu'on en parle. Et justement, c'est ça que je parle. C'est ça ma question. Je comprends très bien, et je trouve ça passionnant. La liberté qu'il y a dans le fait d'aborder l'action du sophisme. Ceci dit, il me semble que, surtout si on regarde par rapport à l'idéologie, il me semble qu'il y a quelque chose de commun dans l'utopie, y compris dans le négatif de l'un par rapport à l'autre, c'est le dogmatique. C'est-à-dire qu'une utopie qui ne serait pas dogmatique, elle serait floue, elle serait un récit, elle ne s'imposerait pas comme quelque chose, justement, qui amène sa vérité avec soi. Il me semble que, alors, quand on pense à la nature, il est clair que ce n'est pas par hasard qu'on va fonder sur la nature, que ce soit celle de Bacon, celle de Campanella, ou celle... parce que c'est bien les lois de nature qui vont permettre de quoi ? Ben, d'être législateur. Il y a une notion qui n'est pas, et je vais tirer là-dessus, il y a une notion qui me paraît, justement, pourquoi c'était nécessaire pour le monde moderne, c'était parce qu'il fallait, le monde moderne, c'est essentiellement l'autonomie, c'est-à-dire la possibilité pour l'homme, par le savoir propre, d'établir des lois, et non pas de les recevoir. Et donc ce travail de donner ou quand a été maltraité, alors c'est vraiment très important, parce que c'est contre lui son travail, c'est aussi utopique, donc. Hein.
Oui.
Et c'est aussi utopique, oui. et c'est radicalement utopique. Le problème, c'est effectivement les lois de la nature, d'où les sciences humaines, comme lois de la nature appliquées à la société, qui vont permettre de légiférer pour la société. Dans ce sens, l'utopie dialectique. C'est-à-dire qu'il y aura le libéralisme, il y aura les sociologismes qui ont été utopistes, il y aura Marx. Tu vas dire, ça ne peut pas marcher comme ça, etc. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Et ça donne une dialectique, effectivement, de l'utopie et du biologique. Et effectivement, s'il n'y a plus d'idéologie aujourd'hui, ce serait parce qu'il n'y aurait plus. L'utopie, ce serait parce éventuellement parce qu'il n'y aurait plus d'idéologie. Le point aujourd'hui, c'est la crise de l'idéologie. C'est-à-dire le fait que les énoncés utopiques ou dogmatiques qui fondaient l'idéologie dominante sont entrés. Et à partir de là, effectivement, alors ça ne veut pas dire qu'il y a des utopies, mais ça veut dire que les discours sont sans arrêt utopiques et à la fois utopiques et idéologiques, la théorie du marché en est un exemple. À la limite, les protestataires sur la place sont des exemples. On n'a plus que ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus que dans un univers où on est à la fois dans le réel et on est sans discussion, parce que le statut de la réalité du monde dans lequel on est extraordinairement problématique.
Ce que vous dites est extrêmement intéressant. Alors, moi je serais tenté de dire, plutôt que c'est l'idéologie qui a gagné contre l'utopie, qui occupe, il n'y a jamais eu autant d'idéologies qu'après la fin des idéologies. La fin des idéologies, c'était le triomphe de l'idéologie. Elle est aujourd'hui, et elle a vaincu, elle a remplacé l'utopie.
Et,
bah oui, mais elle se nourrit de ces crises. Elle a besoin de ces crises.
Non, ça c'est bien. Non, la crise actuelle n'est pas une crise comme les autres. Et il y a un affolement absolu, y compris les idéologies dominantes par rapport à ce qu'ils font faire. Il y a qu'à entendre les politiques dire qu'il faut à la fois relancer et tout ce qu'ils font faire est contradictoire. Les mots à mots, jour après jour. Les gens sont affolés aujourd'hui. Totalement affolés.
Ah oui, mais l'idéologie, c'est affolant.
On doit à Auguste Comte, justement, une idéologie qui a été non appelante. Si vous prenez la crise 29, qui était pendant l'idéologie positiviste, elle n'a jamais empêché ni le Black Civil Act, ni la comptabilité nationale, et toute une recrite, ni évidemment le keynésianisme, qui étaient toutes les chaînes qui supposaient le positivisme, dans les systèmes fermés, une possibilité de mesurer, et la croyance au progrès. Vous n'avez plus ça aujourd'hui. Et plus personne. Il n'y a plus de clôture des systèmes, il n'y a plus de croyance dans la mesure, ou les ratings, etc. Et on est dans ce monde-là. Et je crois que la science en subit les effets, puisqu'on est soumis aussi aux ratings, et évidemment, plus personne ne sait comment valoriser, comment pouvoir développer un savoir avec des modes de reconnaissance corrects. Et je crois que ce n'était pas toujours le cas, même s'il y avait une biologie dominante dans l'académie.
Ben écoutez, je vais réfléchir à tout ça. Ce que vous dites est très stimulant, hein, très intéressant. Le point sur lequel je serais quand même vraiment en désaccord avec vous, c'est la question du dogmatisme. L'utopie est dogmatique si on la lit au premier degré. Mais si on regarde un petit peu plus près, justement, si on fait intervenir cette dimension d'ironie qui est toujours sous-jacente, non, même Campanella, il y a toujours un clin d'œil qui accompagne tout ce qu'il dit. Ce sont des fariboles, c'est clair.
Rappelez-vous Cicero qui disait des augures qui rient quand ils font. Autrement dit, le pouvoir dominant, lui aussi, est ironique. Simplement, c'est pas une ironie parfaite.
Oui, oui.
C'est vrai. On peut penser que les prêtres rient, effectivement. Mais n'empêche que.
Oh, si seulement. Moi, je les trouve bien tristes.
Comme plus personne ne croit à rien, ils sont obligés, eux, d'essayer de croire à quelque chose.
Vous voulez dire
oui, le titre de votre ouvrage me renvoie systématiquement à celui d'un ouvrage des années 70 de René Dumont, L'utopie ou la mort, où je crois qu'il mettait un point d'interrogation. Paradoxalement, c'est très bien que de taxer comme utopie sa programme politique, c'est le condamner à ne pas réaliser. Que pensez-vous de ce terme en politique?
Je crois qu'il ne faut pas chercher chez les utopistes des programmes. Quand on les lit, on se dit, mais ce qu'ils proposent est impraticable. Mais ils ne proposent rien, au sens d'un projet ou d'un programme. Ils nous mettent en face d'une description très fouillée, d'un état complètement imaginaire, dont la prise en considération doit nous amener à revoir ce que nous pensons du monde actuel, tel qu'il est. Donc, de ce point de vue, condamner un programme politique en disant qu'il est utopique, c'est peut-être justifié en particulier, mais en tout cas, le mot utopique n'est pas bien employé. Hein, parce que l'utopie... l'utopie se ramène à des programmes, eh bien, elle n'est pas intéressante. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est fausse. Parce que justement, elle n'est ni vraie ni fausse. Avec l'utopie, on est dans cette région intermédiaire très perturbante, hein, où on ne peut pas distinguer le vrai du faux, où la raison cartésienne devient impuissante. Je signale en passant que quand elle est là, quand il était en France, elle était un voyage exprès en Hollande dans l'espoir de rencontrer Descartes. Il avait refusé obstinément de le recevoir. Ce métier de lui, on comprend très très bien. Pourquoi ? Entre la rationalité cartésienne et puis la fiction utopique, ça, y a pas de, ça ne peut pas marcher ensemble. Le contraste est total. Moi, j'ai pris le parti. Alors, c'est un pari. Hein, de, justement, de prendre les choses par le côté de l'illusion totale. Pas chercher. Alors, vous me direz, mais après Fourier, il y a eu des fourieristes. Il y a eu une école. Ils ont essayé de fonder des phalanstères. Il y a toute une histoire. Ça a très duré jusqu'au XXe siècle. Hein. Si ça se trouve, il y en a d'ailleurs toujours encore maintenant des... Alors, oui, alors ça, c'est autre chose. Dans les tentatives de faire passer les idées de Fourier dans le réel, le fameux mystère de Guise, Guise qui est dans l'Aisne à proximité de Saint-Quentin, hein, par le Gaudin, le fabricant de poils, qui était non seulement patron d'usine et qui a construit ce fameux mystère, mais qui a écrit toute une œuvre très importante et très très intéressante. Je vous signale, si vous avez vu ce film relativement récent, lui aussi complètement farfelu, Louise Michel, il y a une séquence qui est tournée dans le fameux mystère de Guise, où on voit, alors l'idée du fameux mystère, c'était, la construction sociale inspirée des idées de Fourier, où, chez Fourier, l'une des choses qu'il combat le plus, c'est l'idée d'égalité. L'égalitarisme, l'ennui, c'est scandaleux, ça ne va pas. Et chez Fourier, il y a des riches et des pauvres. Hein, des très riches et des très pauvres. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur donner l'occasion de se rencontrer. Donc le familistère de Guise, c'est... Bon, Madame Bettencourt habiterait dans un grand ensemble un appartement luxueux, naturellement, hein, où il y aurait place pour ses coiffeuses, ses masseuses, etc., 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 et elle vivrait certainement au niveau de ses voisins, mais elle serait entourée, alors suivant des gradations, des séries, justement, très très fines, à l'étage au-dessous, sur le palier en face, il y aurait des gens un petit peu moins riches de plus. Et on arriverait, et elle irait comme tout le monde le soir à la bourse pour renégocier son emploi du temps, et elle se lèverait à 3h30 du matin comme tout le monde. Et naturellement, elle aurait des activités, bon, puisqu'elle a fait son argent dans le shampoing, je suppose qu'elle pourrait s'intéresser aux arts de la coiffure ou à des choses de ce genre, la culture des plantes exotiques, des choses luxueuses. Alors, pour lire Fourier, je me suis servi de ce procédé qui peut-être pas... j'ai trouvé que ça marchait pas mal. Le livre sur lequel je me suis concentré, Le Nouveau Monde Industriel, est ponctué de petites fables où il invente des personnages et où il raconte des histoires. C'est extraordinaire. C'est d'une naïveté. Et en même temps, alors c'est là que le mot charme s'applique à la perfection, ce sont des petites histoires. Alors il y a des riches, hein, il y en a un qui s'appelle Mondor. C'est-à-dire qu'il est assis sur un tas d'or. Mais il a l'occasion de fréquenter au cours de ses activités le pauvre Jeannot qui lui rend des services. Et en particulier qui rend des services à ses petits-enfants. Fourier s'intéresse énormément aux enfants. Il les prend très jeunes, hein, à 2 ans, et il pense que dès leur plus jeune âge, on peut les intégrer. Ils vont aussi à la bourse. Alors ils font des petits travaux, ils font rouler des petits pois sur des plans inclinés pour les faire tomber dans le... Bon, il y a des descriptions. Il s'est intéressé au matériel pédagogique. Il faut fabriquer pour les enfants des objets à leur mesure qui vont leur permettre de se socialiser très très tôt. Dans le système de Fourier,
au fond, tout revient, tout passe par les enfants. Hein? Madame Bettencourt, alors évidemment, elle n'a pas de chance avec ses enfants, mais enfin, peut-être que ses petits-enfants ou ses arrière-petits-enfants pourraient avoir l'occasion de fréquenter, ou d'avoir de l'aide à obtenir. Et peut-être que Madame Bettencourt, comme il y a une personne très riche dans l'une des femmes de Fourier, elle va recoudre les boutons du jeune homme pauvre. Et peut-être que... dans les boutons, enfin bon, je ne sais jamais. Vous allez parler du désir, vous allez dire, bon, c'est un cliché, bon, c'était ça votre... Et, non.
Je dis qu'il y a un concept central chez lui.
Oui, mais non, pas le désir. Pour Fourier, le désir n'existe pas. Il y a toutes sortes de désirs. Et à la bourse, chaque soir, on renégocie ses désirs. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcé d'avoir les mêmes le lendemain. Hein? Et surtout, alors l'autre grande idée de Fourier, c'est que tout doit se pratiquer en groupe. Groupe, sous-groupe, vous avez dit la vie en groupe, c'est inquiétant. Et justement, je pense que Fourier est très sensible à cet argument. Il n'y a pas de groupe organisé. Il y a des groupes qui sont formés de sous-groupes, qui sont formés de sous-groupes. Et tout ça est en mouvement permanent. Et encore une fois, d'un jour sur l'autre, ça change. Donc, ce n'est pas du tout une grille captatrice. Hein. Alors, ce qui est extraordinaire chez Fourier, c'est que c'était pas un homme instruit. C'était en grande partie un autodidacte. Il a trouvé tout ça tout seul. Il a une invention. Et le désir chez Fourier, il est justement très particulier parce qu'il est inventif. Vous comprenez ? Désirer, c'est pas avoir envie de manger des poires. C'est se demander, oui, des poires, mais quelles poires ? Manger de la soupe, mais quel genre de soupe ? Un consommé, un velouté, etc. Et non seulement ça, mais avec qui est-ce que je vais la manger ? Alors, imaginons une table de restaurant où se réunissent trois personnes qui ont toutes les trois envie de manger du velouté. Elles vont se barber. Leur repas va être... Justement, satisfaire leur vie. Mais pas du tout. Il faut s'arranger. C'est à ça que la bourse sert. Pour faire se réunir à une table, même table, une personne qui mangera du velouté, une personne qui mangera du consommé, une troisième du bouillon de légumes, etc. Et pendant, en mangeant, elles vont discuter. L'une va dire à l'autre, c'est moi qui suis dans le vrai. Et l'autre va dire, mais non, pas du tout. Ils vont discuter des mérites respectifs de leurs désirs. Et peut-être d'ailleurs qu'à la fin du repas, ils auront changé de position. C'est une utopie du mou. Mais elle est tendancielle, l'harmonie.
C'est comme chez
la niche,
il faut quand même
qu'il y ait
quelque chose.
Non, chez la niche, il n'y a pas la bourse du soir. Tout est dans la bourse du soir. Mais écoutez, moi je trouve que c'est une belle idée.
L'harmonie fait par la bourse, on le sait. Normalement, dans la bourse, plus les fichiers des marchés, là, plus une dignité qui garantit quelque chose de l'ordre de l'histoire. Voilà. C'est moins important que ce soit là. Et bien, il y a une religion fourriériste qui a existé.
Oui.
Et comme il y a une religion intimonienne.
Ah oui, mais c'est très différent. Hein.
Oui, c'est impossible d'avoir une pensée de la hiérarchie dans l'univers moderne sans poser une position haute. Et c'est pour ça que Proudhon s'est débarrassé de ça avec la conscience politique.
Mais, je vous avoue, j'ai jamais compris pourquoi on classait Proudhon parmi les utopistes. Non, mais Proudhon n'a jamais écrit d'utopie au sens. Il n'y a pas de fiction chez Proudhon. Oui, c'est utopique, mais c'est. Oui, alors là.
La conception de l'atelier, le rapport à la famille, etc. Alors, c'est moins fermé, mais il y a à peu près des éléments.
Oui, c'est très rasoir, hein, Proudhon. C'est très intéressant, mais c'est vraiment barbant. Ce qui lui manque, alors, c'est vraiment l'ironie. Alors là, il en est totalement dépourvu.
C'est comme Saint-Simon, il correspond des yeux.
Ah non, Saint-Simon, non, oh Saint-Simon.
Saint-Simon, comme désir, et contre, les ceux qui sont du côté de la connaissance sont sérieux, ceux qui sont du côté du désir.
Oui. enfin, Comte, c'est moins sérieux qu'on le croit. Hein. Bon, ça va.